Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle René Robert. Je travaille dans le service de réanimation au CHU de Poitiers. Et puis, dans mes autres casquettes, il y a celle de la réflexion éthique. Et je suis à la fois un membre très actif de l'espace régional de réflexion éthique de notre institution. Et puis, je fais également partie du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir tout le monde pour cette réunion et ce débat et ces discussions qui sont centrées sur un sujet difficile que vous voyez affiché ici, acharnement thérapeutique ou obstination déraisonnable. Et avant de laisser la parole à nos intervenants, je remercie bien sûr Madame Guiton et puis l'Espace Mendès France de nous accueillir ici pour nous permettre ces débats. Je remercie l'équipe du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie d'avoir fait le déplacement jusqu'ici pour animer cette discussion. Et je vous rappelle que l'année dernière, ils étaient déjà venus ici dans cette même salle, et puisque le Centre national organise ou co-organise ou participe à un certain nombre de débats dans différentes villes de France. Et donc le thème l'année dernière, c'était directive anticipée, et sans doute un certain nombre d'entre vous étaient déjà là l'année dernière. Et le thème cette année est acharnement thérapeutique ou obstination déraisonnable. Et donc ce qu'on fait aujourd'hui ici à Poitiers va être fait aussi dans un certain nombre d'autres villes. Et je pense que Véronique nous en dira quelques mots. Et donc, moi, je vais m'arrêter de parler ici et je vais tout de suite passer la parole à notre modérateur, Éric Favreau.
Eh bien, bonjour. Donc, je suis Éric Favreau, je suis journaliste. Et donc, alors, je modère, c'est ça, ou j'anime? Non, je vais surtout passer la parole. L'idée de ces débats, c'est vrai que l'année dernière, on a fait 12 voire 13 débats autour de la question des directives anticipées. Et l'idée était de faire en sorte que ça ne soit pas toujours les mêmes qui parlent sur ces questions-là, que ça soit plutôt des gens, alors il y a l'expression toujours des citoyens, mais que ça soit un peu la base, que ça soit que s'expriment sur ces questions très souvent compliquées, délicates et surtout très personnelles de la fin de vie. Ben, voilà, les gens qui sont confrontés ou qui ont été confrontés ont sûrement bien des choses à dire. Et donc, voilà, on recommence, comme le disait René, sur un nouveau thème autour de la question de l'obstination déraisonnable et de l'acharnement thérapeutique. Alors, c'est vrai que, a priori, on se dit, mais c'est un peu la même chose. Hein. Et puis, l'acharnement thérapeutique, ça paraît très clair. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est quand on va trop loin. Et l'obstination déraisonnable, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est une notion un peu plus générale? Est-ce que ça englobe d'autres valeurs? Et puis, on se dit que peut-être ce duo de mots est plus compliqué qu'on ne le croit, que ce n'est pas si simple que ça, et que l'acharnement thérapeutique, ben voilà, ça renvoie peut-être à des situations personnelles, à des situations individuelles, que voilà, que pour quelqu'un, ça peut être de l'acharnement, pour quelqu'un d'autre, ça peut ne pas en être. Voilà. C'est un peu de tout ça qu'on aimerait en discuter avec vous et avec Véronique Fournier, qui est complètement à droite, comme d'habitude. Quoi, non, pas toujours. Qui dirige donc le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Souvent, je commence par l'un et termine par l'autre. Voilà. L'idée a été de construire. Alors voilà, d'une certaine façon, c'est vous qui essuyez un peu les plates. On s'était dit, on va essayer de prendre un cas, une histoire, de la raconter un petit peu en détail, une histoire qui pose ces questions d'acharnement thérapeutique ou d'obstination déraisonnable, de demander à des gens qui ont un petit peu travailler sur la question, qu'est-ce qu'ils en pensent, voilà, d'en discuter avec vous, et puis bien sûr, surtout de voir, voilà, si dans la salle, il y a d'autres choses que ces notions-là évoquent. Donc, ces 2 heures de débat, puisque ça va se terminer à 20h, vont se passer de cette façon-là. Véronique va raconter une histoire, voilà, soit la salle va vouloir réagir tout de suite, ou soit on va demander à nos 4 intervenants que je présenterai. Ah, oh, ben si, je peux vous présenter tout de suite. Hein. Pourquoi attendre? Alors, je fais très attention parce que souvent, je confonds les noms. Corinne Giraudeau, c'est bien vous. Comment? Ah, ben voilà, j'en étais sûr. Voilà. Vous êtes avec votre voisine Audrey Le Gall, toutes les deux psychologues et oncologues, voilà, au CHU de. Psychologue, voilà, psychologue dans un service de cancérologie. Evelyne Liu, vous êtes gériatre, mais aussi gériatre-oncologue. Quoi, vous travaillez aussi dans un service de proche du cancer. Et Benoît Pain, vous êtes philosophe, mais vous m'avez dit non, je ne suis pas philosophe, je suis professeur de philosophie. Donc peut-être que c'est différent. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que donc vous avez un peu déjà, vous connaissez grosso modo déjà l'histoire. Et après, l'idée vraiment, c'est les débats, je suppose que vous en avez été beaucoup. La plupart du temps, ça ne sert absolument à rien, un débat, on débat, etc. Donc, l'idée, là, c'est que, un, que ça soit extrêmement détendu, et deux, voilà, que les gens parlent de... Voilà, ce sont des questions très, un peu compliquées, très personnelles, donc autant que les gens en discutent et en débattent de façon aussi détendue et aussi intime que peut le permettre une réunion comme ça. Véronique, c'est à toi.
Merci, Eric. Alors, si tu me permets, avant de commencer à raconter... l'histoire de Ginette que vous avez tous dans vos dossiers, qu'on a écrit en quelques lignes et que je vais essayer de vous résumer à nouveau. Je voudrais juste revenir sur cette histoire d'acharnement thérapeutique et d'obstination déraisonnable. Parce qu'au fond, on a changé de terme. C'est-à-dire qu'autrefois, tout le monde savait ce que c'était l'acharnement thérapeutique. Et du reste, un certain nombre d'entre vous nous ont dit l'année dernière, dans nos directives anticipées, nous avons écrit... Je ne veux pas d'acharnement thérapeutique. Je ne connais personne encore qui ait écrit « Je ne veux pas d'obstination déraisonnable ». Ce n'est pas quelque chose qui est passé dans le langage commun encore. Pourtant, aujourd'hui, c'est ce terme-là qui a été consacré par la loi. Alors, est-ce que c'est une lubie de juristes ? Est-ce que les juristes ont pensé que c'était mieux d'utiliser ce terme-là que celui d'acharnement thérapeutique ? Et pourquoi ? Je vous propose deux hypothèses qui sont probablement, toutes les deux font partie de la réponse, si ce n'est exclusivement, en tout cas elles font partie de la réponse. D'abord l'idée c'était de dire que l'acharnement thérapeutique c'est quelque chose qui relève des docteurs, de la médecine, du médical, alors que l'obstination déraisonnable c'est quelque chose qui est plus dans le langage courant, même si effectivement on n'en parle pas comme ça au quotidien. Mais l'idée du législateur, c'est de dire finalement, comme le disait Eric à l'instant, ce n'est pas forcément la même chose pour tout le monde. Pour l'un, un traitement sera déraisonnable, alors que pour l'autre, il sera raisonnable. Et donc ça, c'est une première différence qui est très importante. C'est-à-dire que ce qu'a voulu introduire le législateur dans la loi, c'est que finalement, ce n'est pas qu'en termes médicaux que tout ça se discute. C'est en termes de chacun. Qu'est-ce que ça représente pour chacun d'entre nous d'avoir tel traitement ou tel autre, et où est-ce qu'il met le seuil de ce qui est pour lui raisonnable ou pas raisonnable? Donc c'est moins médical que précédemment. Et l'autre chose, c'est que l'idée, c'est d'en débattre à plusieurs. Et c'est de dire que oui, je peux accepter que l'autre n'ait pas le même seuil que moi. Et donc l'idée de ce soir... notamment à partir de l'histoire de Ginette, c'est de vous montrer qu'il n'y a pas de vérité sur cette histoire-là. Et quoi que vous disiez, quoi que vous en pensiez, personne n'est d'accord sur une définition objective de l'obstination déraisonnable ou de l'acharnement thérapeutique. Ça se discute à chaque fois. Et finalement, très souvent, pour nous, les cliniciens, au chevet des patients, les deux options sont possibles. On peut soit considérer qu'il faut continuer de traiter et continuer de donner une chance à la personne de s'en sortir avec la médecine, soit à l'inverse, penser que peut-être ça suffit comme ça et qu'il faut savoir à un moment donné s'arrêter. Voilà. Et donc, s'il y a autant de doutes et autant de flou sur cette définition-là, si vous écrivez pas d'acharnement thérapeutique dans vos directives anticipées, ça ne nous aide pas beaucoup quoi, à décider. Et donc, peut-être qu'il faut exprimer quelque chose d'un peu plus complet. Bon, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, Ginette. Eh bien, c'est une histoire sur laquelle nous avons travaillé il y a quelque temps, dans l'hôpital dans lequel je travaille à Paris, qui est l'hôpital Cochin. Et donc, ce n'est pas une histoire inventée. Et c'est une histoire qui est relativement récente. Et vraiment, qui nous a posé question. Et quand nous avons discuté collégialement, comme nous invite la loi Leonetti autour de cette histoire-là, eh bien, nous n'avions pas tous les mêmes points de vue. Ginette a 88 ans. C'est une dame qui, dans sa jeunesse, est tombée sous le charme d'un jeune homme dont elle est tombée enceinte, et le monsieur est parti. Et elle est restée seule avec son enfant. Et il se trouve que cet enfant, quand il est né, était atteint d'une trisomie sévère, et qu'elle l'a élevé seule avec ce handicap qui était conséquent. À l'époque, vous voyez, hein, c'était à 88 ans, c'était dans les années 20, eh bien, c'était pas forcément facile pour une femme d'être seule avec un enfant, et en plus avec un enfant lourdement handicapé. Et au fond, elle a eu une vie assez difficile à élever seule cet enfant. Elle a travaillé dans une usine toute sa vie, dans une usine de confection, et elle s'est repliée un peu sur son fils et sur elle-même, avec l'aide de sa sœur, qui a eu un peu la même histoire, et qui, à peu près en même temps, a eu un fils, qui donc, aujourd'hui, est cousin du premier. Ils ont à peu près le même âge, et ils ont une cinquantaine d'années, aujourd'hui. Voilà. Et puis Ginette, elle a travaillé toute sa vie dans son usine, et puis elle a été à la retraite, à un moment donné, elle a continué de vivre dans son petit appartement loué, avec son fils. Ils étaient tous les deux très solidaires l'un de l'autre et ils s'épaulaient l'un l'autre, mais en gros c'est elle qui faisait tout. Le cousin était là et très souvent il venait les voir. La tante était partie revivre en province et le cousin il venait, il apportait des grandes courses parce qu'elle n'arrivait plus à faire ses courses toute seule, il toquait à la porte régulièrement, il téléphonait pour s'assurer que tout allait bien. Et puis un jour, pas de nouvelles pendant 8 jours, 15 jours, si bien qu'il finit par s'inquiéter, il sonne à la porte, personne ne répond, et il décide d'appeler les pompiers et d'entrer dans l'appartement. Et là, il les trouve quasi mourants les deux. Elle était allongée dans son lit et depuis plusieurs jours, et elle n'avait pas nourri son fils, il n'y avait plus rien dans le frigidaire, et lui pesait plus que 37 kilos à l'époque, ce qui n'était pas beaucoup. Et elle, elle était vraiment extrêmement mal. Donc on appelle les services d'urgence, on met lui en famille d'accueil, et elle, on la transporte à l'hôpital, aux urgences. Et qu'est-ce qu'on fait aux urgences? Ben, on regarde ce qui se passe, on s'aperçoit qu'elle est en occlusion intestinale, on la met au bloc opératoire, on lui met un anus artificiel, on confirme le diagnostic de cancer du côlon et après l'intervention, on réfléchit. Elle passe dans ce que vous connaissez peut-être qui s'appelle une réunion multidisciplinaire, de concertation multidisciplinaire, et on décide que dans ce genre de situation, eh bien, il faut faire un plan thérapeutique en trois étapes. D'une part, il faut lui proposer une chimiothérapie pendant plusieurs mois. Ensuite de ça, une radiothérapie pour bien stériliser la zone cancéreuse. Et ensuite, une fois que tout sera fait, si ça se passe bien, on devrait pouvoir enlever la tumeur. Et ensuite de ça, elle a des bonnes chances, Ginette, de guérir de son cancer, parce que c'est un cancer qui est resté assez local et qui n'a pas métastasé nulle part, et que le reste de son état général va bien. Alors voilà. On est parti pour lui faire ça, et Ginette, ma foi, elle n'a pas le temps de dire ouf, et elle a du mal à comprendre ce qui lui arrive, et elle est quand même extrêmement fatiguée, et elle est quasiment au bout du rouleau, hein, parce qu'elle avait choisi de ne pas se soigner, et de ne pas aller voir le médecin, et de rester chez elle avec son fils, et probablement de mourir chez elle avec son fils. Eh bien, elle se laisse faire, elle se laisse remonter la pente, et elle subit la chimiothérapie, ma foi, pas si mal, mieux que prévu, la radiothérapie aussi. Mais quand même, tout ça a pris une bonne année. Et au bout de cette année, se pose la question de la chirurgie. Parce qu'il faut compléter maintenant tout ce qu'on a fait. Et là, alors qu'elle va en consultation chez le chirurgien se dit, oh là là, je ne pensais pas qu'elle arriverait jusque-là. Et maintenant, je ne suis pas totalement sûre que ce soit une bonne idée de l'opérer. Parce qu'elle est quand même très âgée. Et puis, la situation locale de l'abdomen dans lequel je vais être obligée d'intervenir n'est pas bonne. Et la radiothérapie, vous savez, ça rend les tissus un peu fibreux, un peu qui ont du mal à cicatriser après, souvent. Et donc, il a très peur, ce chirurgien, qu'en fait, la cicatrisation ne se fasse pas et que ça prenne encore des mois pour cicatriser. Et que Ginette soit obligée de rester au lit. Elle est déjà devenue totalement grabataire. Elle ne peut plus se lever du tout. Et il a peur que ça aggrave de beaucoup sa convalescence. Il ne pense pas que ça puisse se faire comme chez quelqu'un de jeune en un mois de temps et qu'elle puisse sortir vaillamment de tout cela. Et donc, il est très résistant à y aller. Il n'est pas chaud du tout. En plus, elle est charmante, tout à fait accueillante, mais pas totalement, comprend pas totalement ce qui se passe, quoi. Alors, comme le dit très souvent Eric, voilà, c'est pas pour ça qu'elle a le Alzheimer. Elle n'est pas du tout, elle n'a pas du tout des troubles cognitifs sévères. Mais c'est le dernier qui a parlé qui a raison. On ne sait pas trop ce qu'elle comprend et on ne sait pas si elle comprend les risques de l'opération véritablement et la balance bénéfice-risque. Donc on n'est pas sûr que son consentement soit vraiment un consentement éclairé. Donc le chirurgien se dit, c'est quoi le sens de ce que je suis en train de faire? Pour quel type de vie et pour quel avenir nous proposons cela à Ginette? Il déclenche à ce moment-là une série de questions avec ses collègues oncologues, gériatres, et aussi les psychologues du service et les soignants du service, en disant, est-ce qu'on est sûr que c'est la bonne idée pour Ginette? L'oncologue gériatre dit, dans cette histoire-là, écoutez, elle a vaillamment passé les deux premières étapes, il n'y a aucune raison qu'elle ne passe pas bien la troisième, et pourquoi vous ne lui proposez pas ça, monsieur le chirurgien? C'est parce qu'elle est vieille et parce qu'elle elle bat un peu la campagne, mais ce n'est pas juste, elle a le droit à autant de traitements que tous les autres patients, et après tout, si on peut la guérir de son cancer, pourquoi est-ce que la médecine n'irait pas jusque-là? Et le gériatre du service abonde dans ce même sens et dit, voilà, elle a déjà passé tout ça, ça fait un an qu'elle est chez nous, ça fait un an qu'elle se bat contre cette maladie, elle ne rouspète pas, elle ne dit pas qu'elle ne veut pas faire, et donc pourquoi est-ce qu'on ne lui propose pas ça? Moi, je ne me vois pas maintenant baisser les bras, et qu'est-ce qui va se passer si on baisse les bras? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que probablement, oui, à distance, le cancer va reprendre une certaine évolution. Mais c'est un cancer qui est localisé dans le ventre et qui n'a pas progressé très vite, probablement, dans les années précédentes. Ceci dit, tout le monde est d'accord pour penser qu'inéluctablement, à un moment donné, la tumeur va réévoluer. Pour l'instant, Ginette supporte assez bien sa colostomie, son anus artificiel, elle ne rouspète pas avec ça, et elle se nourrit tout à fait tranquillement, normalement, par la bouche, et elle est heureuse de ses repas. Voilà où nous en sommes sur le plan médical. Donc les uns disent c'est vraiment de l'acharnement thérapeutique ou c'est de l'obstination déraisonnable de l'opérer parce qu'on en prend pour un an encore de très lourdes médecines pour un bénéfice qu'on ne connaît pas. Et finalement, là, elle a récupéré une petite vie agréable. Mieux vaut qu'elle continue comme ça et on verra bien ce qui se passe localement, quand est-ce que ça reprendra. Et les autres, ils disent, mais non, il vaut mieux la débarrasser de cette maladie-là. Et ensuite de ça, elle pourra effectivement aller peut-être vivre sa vie dans une EHPAD. C'est quoi le rêve de Ginette? Nous allons la voir, nous la rencontrons. Et effectivement, elle est gentille comme tout et elle ne dit pas non à rien. Mais elle dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de retourner chez moi et de revivre avec mon fils. Tout le monde sait que ce n'est pas possible, ça. Que déjà, elle n'y arrivait pas avant, mais qu'elle y arrivera encore moins après. Et que jamais on pourra lui proposer ça. Et elle dit, je ne veux surtout pas aller vivre en maison de retraite. Ça, jamais. Bon. Alors on est bien embêté avec ça. Parce que d'une certaine façon, on se dit, la solution, si on ne l'opère pas, on ne peut pas la garder dans l'hôpital. Si on ne l'opère pas, il va falloir qu'on l'envoie en maison de retraite. Qui est exactement ce qu'elle ne veut pas. Et donc peut-être que pour honorer le fait qu'elle ne veut pas aller en maison de retraite, eh ben, il faut qu'on l'opère. Elle adviendra ce qu'elle adviendra, au moins on aura encore 6 mois pour réfléchir, puisque de toute façon elle va rester la chimie. Mais est-ce que c'est une bonne solution de réagir comme ça? Donc on se tourne vers le neveu. On ne va pas voir le fils parce qu'on sait que malheureusement il ne pourra pas nous dire grand-chose. Mais on voit le neveu qui lui est extrêmement proche et de son cousin et de sa tante. Et le neveu, qu'est-ce qu'il nous dit? il nous dit, écoutez, laissez-la tranquille. Elle a 88 ans, elle a vraiment eu une vie difficile, elle a vraiment mené sa vie de bout en bout, et si j'avais pas défoncé la porte, aujourd'hui elle serait morte, 3 jours plus tard. Et donc c'est vraiment ça qu'elle voulait. Elle, quand elle dit je veux rentrer chez moi, c'est pas qu'elle veut rentrer chez elle tellement, c'est qu'elle veut surtout revivre avec son fils. Et ça, c'est impossible. Et donc, moi, je crois, il est aide-soignant, le neveu, que ce qui pourrait lui faire le plus de bien, c'est qu'elle soit pas loin de moi, que je puisse aller la voir très souvent, que je lui amène son fils en visite, et que, advienne qu'est-ce qu'il adviendra ? Elle a déjà 88 ans, arrêtons avec toute cette médecine, pour les gens très âgés, c'est trop. Foutez-lui la paix. Comme ça, il nous parle. Voilà. Et vous, vous en pensez quoi ?
Merci. Quel talent pour conter une histoire. Avant qu'on le donne, est-ce qu'il y a des personnes dans la, qui veulent un peu de réaction ou de précision sur l'histoire en elle-même qui... Non ? Ah oui. Ah ben alors voilà, c'est ça. Mais quand on avait discuté de cette histoire-là, ce qui est très impressionnant, et c'est là, je trouvais que c'était vis-à-vis du thème qui est retenu, c'est qu'on voit qu'au-delà de ces idées ou ces concepts, c'est d'abord des histoires de vie. Quoi. Alors à vous, Audrey, je ne suis pas trompé, qu'est-ce que vous en pensez alors ? Alors je ne sais pas si celui-là, ça doit marcher, non ? Hein ?
Alors, ce qui est un peu délicat de notre place de psychologue, c'est que notre travail à nous, c'est d'aller à la rencontre de Ginette et puis ben, de son fils, il lui rend visite, pourquoi pas, de rentrer avec elle, de la rencontrer en fait, Ginette, malgré les troubles cognitifs, de voir comment on peut se rencontrer, comment on peut parler un peu ça, rencontrer son neveu, en fait, ce que vous avez fait, qui peut-être nous informera un peu sur ce qu'elle souhaite, Ginette, parce que c'est ça notre question à nous, en tout cas, psychologue à l'hôpital. On essaie de bien faire entendre ce que Ginette peut-être souhaiterait. Et là, ça devient très compliqué quand Ginette, elle ne peut pas le dire, en fait. Donc, on essaie de réfléchir ensemble, en équipe, avec les soignants qui ont accompagné Ginette tout ce temps-là aussi, qui l'ont rencontrée petit à petit, avec Ginette elle-même, ce qu'elle peut nous en dire. Et sans doute, à un moment, c'est différent d'un autre. Et ben, on va aller la voir à plein de moments pour essayer de voir avec ça, en fait. Et c'est toujours très, très singulier, cette histoire-là, effectivement. Qu'est-ce qui convient à Ginette ? Notre enjeu à nous, c'est pas de se mettre à la place de Ginette, mais c'est de lui laisser toute sa place à elle et de faire avec sa parole. Voilà, c'est un peu ça, nous, notre place de psychologue. Alors, si Ginette était hospitalisée dans un service où je travaille, ben là, comme ça, je peux pas vous répondre. Ça dépend un peu de ce qu'elle me dit. Ce qu'elle me dit un jour, ce qu'elle me dit le lendemain, ce que nous dit le neveu et ce qu'en dit un peu tout le monde de ce qu'elle souhaiterait, elle. C'est un peu délicat, là, je trouve. Moi, je vous dirais, bah, si je parle avec le chirurgien qui peut-être l'a rencontré aussi, hein, à un moment donné, j'entends ce qu'il dit, j'entends bien. Peut-être on peut permettre à Ginette voilà, de continuer sa vie, si elle le souhaite. Si on entend effectivement que Ginette, effectivement, elle est restée au fond de son lit, sans aller voir le médecin, c'est pas rien ça non plus. Voilà. Qu'est-ce que ça vient dire de Ginette voilà. Je vais laisser ma collègue en dire un peu quelque chose.
Bonsoir. Donc moi je vais reprendre ce que disait ma collègue, c'est-à-dire que l'histoire de Ginette racontée, c'est bien mais c'est pas suffisant pour nous. Nécessaire cette histoire mais pas suffisante. Parce que Ginette, nous psychologues, on a besoin de savoir comment elle fonctionne. Alors évidemment, là on va pas parler de fonctionnement psychique et tout ça ce soir parce que voilà, hein, ça sera un peu long et puis on n'a pas les éléments pour ça. Mais par contre, on a des éléments de son histoire qui nous ont été bien rappelés et on ne peut pas faire l'économie de l'histoire de Ginette parce que malgré tout, ça en dit quelque chose sur son fonctionnement. Alors pourquoi ? Alors on a vu hein, qu'elle a eu une vie difficile. Pourquoi n'a-t-elle pas rencontré quelqu'un d'autre ? Pourquoi a-t-elle fait ce choix de vivre avec son fils et sa sœur et son neveu ? Pourquoi est-ce qu'elle s'est isolée à un moment donné ? Comme s'il y avait une espèce d'effondrement, hein, des éléments dépressifs. Ensuite, elle n'a pas appelé. Elle n'a pas appelé pour elle et pour son fils. Et ça me semble aussi important et à remettre dans le contexte. On voit bien que Ginette, elle a fait ses traitements à l'hôpital. dans un service de gériatrie. On peut l'imaginer comme ça. Elle n'a pas fait les allers-retours comme généralement les patients font hein, par rapport au traitement. Ça a sans doute du sens, ça aussi, si elle est restée à l'hôpital. Et on voit bien qu'à l'hôpital, elle devient charmante et guillerette. On a l'impression qu'on a une autre Ginette devant nous, pas celle qui s'effondre à la maison, mais voilà, une fois qu'elle est entourée, sans doute que elle peut lire aussi le désir des soignants, un peu, et c'est ce qui peut peut-être la tenir aussi. En tous les cas, voilà, hein, où en est son désir à elle, quels étaient ses projets de vie, quel serait le bénéfice ou les risques d'une chirurgie, est-ce que ça va améliorer ou pas sa qualité de vie, comment elle peut se projeter avec ça, avec ses troubles cognitifs hein, qu'on nous a donnés. Voilà, tout ça, ça reste en question et en suspens. Et donc, on est là aussi pour en parler avec vous et questionner et avancer pour cheminer ensemble, comme on pourrait le faire avec Ginette.
Alors, pour être un peu direct, bon, oui. Hein, et un peu caricatural, donc là, vous renvoyez tout sur, voyons, essayons de bien comprendre Ginette. Mais bon, on vous raconte cette histoire-là qui est... Elle a toute sa tête, mais on a un petit peu... À la question, quand même, un peu brutale, et qui est quand même réelle, c'est, dans cette histoire-là, qui décide, vous diriez quoi, vous ? Au-delà, parce que vous n'êtes pas simplement... Hein, vous êtes évidemment
en fait,
psychologue
oui.
de fonction,
pour situer,
etc., mais c'est aussi chacun a ses propres attitudes. Voilà.
Nous, les psychologues, on va plutôt se situer dans le processus de la décision et pas dans la décision en elle-même. Peut-être ça, effectivement, c'est compliqué de se le représenter, mais d'aider les soignants à se questionner... Pourquoi pas d'aider le neveu à se questionner ? Il donne une position à un moment donné. Peut-être que si on questionne un peu avec lui ce qu'il en est, ben, y a d'autres questions qui vont s'ouvrir. On est vraiment à cet endroit-là. On n'est pas décisionnaire.
Tout voilà. à fait. Mais là, on ne vous demande pas d'être décisionnaire, mais plus un peu avec votre expérience de psychologue. Et vous êtes là, vous êtes comme tout le monde. Voilà. Vous feriez quoi ? Vous
Alors, est-ce que moi, en tant que personne, qu'est-ce que je choisis ? Ou moi, en tant que psychologue, ce que je choisis ? Mais c'est très différent.
Quels sont vos repères ? Voilà, vous vous dites dans une histoire
comme ça. C'est vraiment le discours. C'est ça qui est compliqué. En tant que psychologue, c'est vraiment le discours de Ginette et de ceux autour.
En tant qu'Audrey, voilà.
Alors, en tant qu'Audrey, c'est autre chose. En tant qu'Audrey, je peux vous répondre. Mais du coup, c'est pas en tant que psychologue. Et c'est ça qui est très différent. Alors, je vais préciser qu'en tant que psychologue, la question, c'est qu'est-ce qu'il souhaite l'autre ? Ou qu'est-ce qu'on peut imaginer de ce qu'il souhaite ? En tant qu'Audrey. Je ne sais pas, je n'ai pas la vie de Ginette. Je vous dirais que moi, en tant que personne, c'est une réponse qui peut être très tranchée, en effet. Je ne sais pas, j'aurais... En tant que personne qui accompagne Ginette, j'aurais envie de vous dire, bah, laissez-la tranquille si elle a envie d'être tranquille. Ou peut-être, en fait, moi, je perçois, je ne sais pas trop. Je peux vous dire qu'honnêtement, non, je n'ai pas eu la vie de Ginette. C'est compliqué de vous dire. C'est ça l'enjeu, c'est de ne pas se mettre à sa place, mais vraiment d'essayer qu'elle ait sa place à elle et d'imaginer pour elle.
Oui. Nous, on avait été, quand on avait discuté de cette histoire, très impressionnés par la position du neveu. Qui manifestement
qui
est quand même
tranché,
quelqu'un
oui.
qui est dans la bienfaisance, comme on dirait, pour ça. Voilà. Et que donc on avait envie, non pas de lui donner raison, mais de donner une place assez importante à savoir, en se disant, mais voilà.
Bon, en tant que citoyen, j'ai envie de lui donner une place aussi. En tant que psychologue, j'irai quand même questionner un peu. Voilà, c'est ça qui est compliqué. C'est pas la même réponse que je vous fais en fonction de la casquette que j'ai.
Alors, madame la gériatre, est-ce que vous, d'abord comme gériatre, c'est très différent du.
C'est différent. Je ne suis pas si d'accord avec vous parce que finalement, le fait d'être gériatre ne nous empêche pas d'être humain. Et je rejoins tout à fait les propos de mes collègues psychologues, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que Ginette n'est pas qu'un colon qu'il faut traiter. C'est une personne autour, avec ses envies, avec son histoire, avec son envie de vivre et son envie de vivre avec son fils. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Nous, en tant que gériatre, on a pour objectif de rendre service aux patients, mais rendre service dans sa globalité. La question est de savoir, effectivement, on est un peu frustré avec l'histoire de Ginette parce qu'on aimerait en savoir plus. Comme je vous le disais, Ginette, ça ne se résume pas qu'à un cancer du côlon. Ce n'est pas un âge et un cancer du côlon. Qu'est-ce qu'elle a eu comme maladie avant ? Qu'est-ce qu'elle a eu à traverser ? Qu'est-ce qu'elle a eu comme vécu, comme expérience ? Face à des médecins, face à l'hôpital, face à des soignants. Comment est-ce qu'elle se positionne face à tout ça, face au regard du handicap qu'elle a affronté du fait de la maladie de son fils ? Ça, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. Et ce, d'autant que là, cette globalité de la personne de Ginette, il faut l'intégrer dans le temps, parce que vous voyez que c'est une histoire qui est longue. Entre le moment où on vous raconte la vie difficile, la catastrophe de l'occlusion, l'arrivée en catastrophe à l'hôpital, qui fait qu'elle arrive en étant pas bien, elle a été douloureuse pendant 3 jours, elle s'est sentie partir, elle s'est sentie abandonner son fils, donc elle est dans un drame terrible. Et là, finalement, on l'opère, mais on ne lui a pas trop demandé son choix. Et de l'histoire que je comprends, elle a eu la chimiothérapie, elle a eu la radiothérapie, mais est-ce qu'on lui a demandé son choix à un moment ? Vous voyez ? Parce que effectivement, on a envie de se dire « Oh, elle a passé la chimio, elle a passé la radiothérapie, ce serait dommage de ne pas compléter le traitement. » Mais peut-être que elle, son objectif, ce n'était pas du tout ça. Là, on l'entend, son objectif, c'est de continuer à vivre avec son fils. Alors bien évidemment, le retour à la maison, tel que c'était auparavant, ce n'est pas possible, parce que ce serait les exposer au danger, et elle et lui, en sachant que lui, actuellement, il est en sécurité dans une famille d'accueil. La question est de savoir, est-ce qu'il s'y sent bien ? Et est-ce que cette famille d'accueil pourrait aussi prendre en charge Ginette pour recréer une structure familiale bienveillante et redonner du sens à la vie de Ginette ? Mais ça, est-ce qu'à un moment, quelqu'un s'est posé la question ? Est-ce que le neveu... Effectivement, on le voit bien, les familles, elles veulent témoigner pour le bien de leurs parents, mais c'est important de pouvoir entendre aussi ce que veut Ginette, et quand bien même elle peut avoir des problèmes de mémoire et des problèmes de jugement, si on lui pose la question, elle pourra, je pense, répondre que sa priorité, c'est son fils. Et la question de la chirurgie, ce n'est pas une question à un instant T. On peut tout à fait imaginer que cette chirurgie, peut-être que là, aujourd'hui, le chirurgien ne la trouve pas en forme, mais si on lui laisse 3 mois, 6 mois, pour mieux manger, pour mieux se remettre en forme, pourquoi pas un moment où elle sera requinquée, où elle sera dans un environnement bienveillant, où elle pourra revivre, à ce moment-là, pourquoi pas se reposer la question de la chirurgie. Parce que vous voyez, le souci, c'est que si on dit qu'on ne l'opère pas aujourd'hui et que dans un an, elle revient aux urgences en occlusion, le chirurgien, il n'aura pas envie de l'opérer. Et alors, qu'est-ce qu'on fera ? On le sait très bien. Ça arrive toujours comme ça. Elle va arriver aux urgences un samedi soir. Elle va tomber sur un chirurgien qui ne la connaîtra pas et qui réagira comme un chirurgien. Et qui réagira comme sur la première opération d'occlusion. Et qui l'opérera en disant « On l'opère et puis on voit ». Mais vous voyez bien que cette chirurgie, si déjà on avait peur, alors que finalement elle était à l'hôpital, chouchoutée, même si ce n'était pas son lieu de vie, et qu'elle subissait l'hospitalisation, tout comme elle a subi la chimiothérapie et subi la radiothérapie, vous voyez bien que finalement, on peut se demander si on s'est posé les bonnes questions au bon moment, et surtout si on a posé des questions à Ginette. Voilà mon positionnement en tant que gériatre.
J'ai une question, mais je crois que Véronique veut
oui.
Ajouter, préciser.
Non, c'est toujours compliqué d'écrire un cas parce que... Ouais. Bon. Mais je peux donner quelques éléments de réponse peut-être. D'une part, il y avait urgence. C'est-à-dire que ce que nous ont dit nos collègues, c'est qu'il faut opérer juste dans une fenêtre après la radiothérapie. Parce que c'est le moment où le traitement a été efficace. Et si on opère après, on a plus de chances, comme vous le savez, de réenclencher le cancer. Donc voilà, donc il fallait opérer là, dans les 15 jours, hein, après la radiothérapie. Et c'est là que le chirurgien, qui effectivement l'a vu plusieurs fois, a dit « je ne le sens pas, je ne le sens vraiment pas ». Et donc ça, c'est une première réponse. Donc oui, la question c'était, à ce moment-là, si on ne l'opère pas, il faut être logique avec nous-mêmes et proposer une stratégie thérapeutique à distance, si jamais ça revient. L'autre question, c'était la famille d'accueil. Ça se passait très mal pour l'enfant. L'enfant, il a 50 ans, dans la famille d'accueil, parce que il est, enfin, on nous a dit qu'il était extrêmement peu, non, qu'il était, d'abord, c'était, non, mais que c'était très difficile pour la famille d'accueil, parce qu'en fait, il n'était pas raisonnable, quand le dîner qu'on lui apportait n'était pas bon, hop, il le jette comme ça par-dessus dans toute la cuisine, et donc évidemment, il n'y a pas beaucoup de familles d'accueil qui acceptent ça. Il est aussi apparemment pas du tout élevé pour faire ses besoins dans un endroit strict. Et donc, ça fait la troisième famille d'accueil, en fait, qu'il fait depuis 9 mois. Donc, et ça se passe mal à chaque fois. Et donc, le cousin, il est probablement en passe de le prendre chez lui. Mais il se dit, je vais peut-être avoir du mal à prendre les deux, quoi. Et donc, l'idée, c'était qu'il le mette qui mettent Ginette dans une EHPAD juste à côté pour essayer de recréer ce qu'ils pouvaient recréer. Donc oui, toutes ces questions ont été posées, ont été travaillées, etc. Mais j'aimerais bien vous entendre sur la question de ça. C'est quand même aussi compliqué de ne pas l'opérer et de la mettre dans une maison alors que justement, c'est vraiment ça. Si elle nous exprime une chose forte, elle nous dit, vous faites ce que vous voulez, vous m'opérez si vous voulez, vous ne m'opérez pas si vous voulez, enfin, en gros. Mais par contre, ce que je ne veux surtout pas, c'est aller en maison de retraite. Et nous, on sait que malheureusement, on n'a pas d'autre solution, même si on en a cherché partout. Et finalement, peut-être on fait le choix de l'opération, si on doit le faire, pour un mauvais argument. Et ça aussi, c'est un problème. Et donc, tous ces éléments-là, ils interfèrent dans la décision d'obstination déraisonnable ou non, quoi.
Quelque chose, parce que à la question, est-ce que là on serait quand même dans, si on l'opérait, donc de l'acharnement thérapeutique ou pas? Parce que là, vous c'est très séduisant ce que vous nous dites. Il faut l'écouter, quoi. Il faut l'écouter, c'est à elle. Voilà, bon, on écoute. Voilà, malheureusement, c'est un peu compliqué. Même elle, je crois qu'elle ne sait pas exactement où elle est. Voilà, est-ce que quand on ne peut pas se reposer complètement sur l'autonomie de la personne et sur sa prise de décision, même si elle a, comme le dit Véronique, un souhait très réel de « je ne veux pas aller en maison de retraite ». Voilà. Okay. Voilà. Est-ce que ces notions d'acharnement thérapeutique, de l'opérer, c'est une bonne façon...
Ce que vous dites là, c'est important. Et pour le coup, le psychologue, souvent, il se situe aussi un peu là. C'est que les soignants, ils viennent dire « mais ça, c'est compliqué, nous, on est aussi un peu bloqués ». Parce qu'en fait, on n'a pas trop d'autres propositions à lui faire qu'une chirurgie peut-être basée sur finalement de mauvais arguments, en fait, et puis un lieu de vie qui ne lui convient pas à elle. Et ça, nous, avec les patients, souvent, ça se travaille, dans le sens où on peut ramener, en fait, les choses comme ça à Ginette, alors voir effectivement ce qu'elle en saisit, hein, ce qu'elle en dit aussi, mais dire, bah, en fait, il y a peu de solutions là à vous proposer, qu'est-ce qui vous conviendrait de mieux et comment, en fait, on chemine souvent ensemble. Parce que Ginette, elle peut dire quelque chose à ce moment-là, mais en fait... elle peut cheminer un peu en se disant finalement, est-ce que je prends une option thérapeutique? Alors, elle ne le dirait pas comme ça, sans doute, Ginette, qui ne me convient pas trop. Ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je peux concéder pour une meilleure qualité de vie? Parce que mon fils, en fait, c'est très difficile pour lui là. Et que ça, finalement, on pourrait recréer un cocon. Hein, moi, j'entendais ça un peu avec le neveu. Parce que moi, j'ai surtout entendu ça, cette histoire-là familiale, ce cocon familial. Et ça se travaille avec les patients, en fait, mais avec du temps.
J'aime bien vous voir sortir de votre fonction de psychologue, parce que le truc, c'est quand même, grosso modo, le risque de l'opération, on l'opère, et puis pendant un an, elle va avoir des cicatrices partout qui vont mal se faire, elle va rester voilà, avec des escarres qui apparaissent, etc. C'est ça, d'un point de vue clinique, le risque. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait ?
C'est plutôt le médecin, ça, qui se positionne là-dessus.
D'accord, mais vous, là, je vous pose la question. Comment on réagit à ça? On se dit, mais la pauvre Ginette, d'accord, mais si c'est pour qu'elle reste pendant un an couchée avec des escarres partout, des cicatrices qui ne se font pas...
Si vous lui envisagez ça, oui, on n'y va pas. Ce n'est pas le souci. Si c'est ce scénario catastrophe-là et que le chirurgien est sûr de ça...
C'est ce que disait un peu en sous-main, parce que quand même, les chirurgiens, nos amis chirurgiens, René les connaît, ils adorent opérer. Donc, et là, c'était quand même un certain signe.
Oui.
C'est rare qu'un chirurgien dise « Ouh là là, c'est un peu casse-gueule ».
Moi, voilà, pour le coup, voilà. J'ai un temps oncogénétique et ça se discute beaucoup avec les chirurgiens de l'opération ou pas, parce qu'on est sur des opérations préventives avec plus de temps. Voilà. Donc, je connais aussi des chirurgiens qui peuvent se positionner autrement. Je ne suis pas trop étonnée qu'ils puissent dire ça. Et effectivement, s'il y a un chemin catastrophique qui est en Ginette, voilà, mais c'est...
On a tous connu des situations où... très différente, où quelqu'un est assez mal, il a été finalement opéré, et puis ces 6 derniers mois, on s'est dit, merde, ça aurait été sûrement mieux s'il n'avait pas été opéré. Quoi.
C'est pour ça que c'est en questionnement, c'est que c'est compliqué. Si on avait la certitude que ça se passait bien, on irait. Si on avait la certitude que ça se passerait mal, on n'irait pas.
Mais on est en situation d'incertitude.
Mais on est tous, à ce moment-là, dans l'incertitude, Ginette et nous tous, je pense.
Benoît Pain, alors, dites-nous.
Peut-être que vous voulez que la salle veut intervenir avant moi.
Je
ne veux pas monopoliser. Tout d'abord, première remarque sur le titre « Acharnement thérapeutique ou obstination déraisonnable ». On a une réponse assez intéressante dans le commentaire de l'article 37 en 95, quand le nouveau code de déontologie a été rédigé. Acharnement thérapeutique, c'est refusé par les médecins parce que le terme est ambigu. dans le sens où, acharnement, on entend la chair, mais la chair non pas en tant que le corps qui vit, mais là c'est carrément le morceau de bidoche, si vous me permettez l'expression. Donc il y a une sorte de réductionnisme et de positivisme qui est véhiculé par cette notion-là. Deuxièmement, ça voudrait dire que le médecin oublie de proportionner le traitement, puisqu'il pourrait s'acharner thérapeutiquement, alors que le travail quotidien du médecin, c'est de proportionner en termes d'utilité, en termes d'efficacité, le traitement. Première chose. Et puis, deuxième chose, c'est que l'acharnement thérapeutique, ça peut être aussi extrêmement positif. Si tout à l'heure, en sortant de l'espace Pierre Mendès France, je suis happé par une voiture, je fais un traumatisme crânien et que le SAMU arrive assez vite et que, bon, allez, on va dire que je ne suis pas trop vieux et que je fais un arrêt cardiaque, mais il me réanime, je fais un deuxième arrêt cardiaque, il me réanime parce que, vu mon âge, on s'acharne, ça reste positif. Et pour le réanimateur, je pense que René, tu es beaucoup plus compétent que moi là-dessus. Et quelquefois, on tente un peu le tout pour le tout. Quelquefois, on ne va pas faire 30 minutes, mais peut-être 40 minutes. Et puis, quelquefois, il y a des choses qui échappent à l'expérience et au protocole. Et puis, pourquoi le législateur, et c'est les médecins qui ont d'abord retenu avant le législateur l'idée d'obstination déraisonnable, c'est qu'un médecin qui est obstiné, c'est un médecin qui ne réfléchit plus. C'est un médecin qui est têtu. Et c'est un médecin qui est peut-être prisonnier sans le vouloir, sans être conscient de ce qu'il fait, d'un protocole, d'une expérience, d'une manière de faire habituelle dans le service. Et puis déraisonnable pour bien montrer que non seulement le médecin ne réfléchit plus, il est têtu, mais en plus de manière non médicale. Il va agir selon des valeurs, peut-être personnelles. Donc là, on n'est plus dans le champ du professionnel, on est dans le champ de la morale. Donc les médecins qui ont retenu ce mot en 1995 ont bien insisté sur le fait que l'obstination déraisonnable est dans le champ de l'éthique, c'est-à-dire dans le champ de la réflexion rationnelle et non pas dans des considérations morales qui seraient plutôt des considérations de valeur, des pétitions de principe qui seraient propres aux médecins mais qui ne pourraient pas être coextensibles aux patients. Deuxième remarque. Ce cas, je le trouve extraordinaire puisqu'il montre très bien qu'on peut faire une avalanche de lois. Ni la loi Leonetti du 22 avril 2005, ni la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 ne pourront résoudre ces cas. Pourquoi ? Parce que chaque cas est singulier et qu'il faut arrêter de vouloir penser que la loi va résoudre comme des protocoles ou autres. Nous sommes ici dans une population vieillissante. Nous sommes face à une situation, à des situations de fin de vie qui sont refusées pour des raisons sociologiques, anthropologiques, bref, c'est pas le lieu ici, mais en tout cas, ces cas-là réactivent l'urgence de la discussion, l'urgence de la dialectique, c'est-à-dire que les soignants réfléchissent en eux et confrontent leur regard et ça doit absolument discuter. Et donc là, l'obstination déraisonnable ou la non-obstination déraisonnable, je suis bien embêté pour en parler, puisque Ginette a des troubles cognitifs, donc déjà ne peut pas réellement se positionner. Il y a un neveu qui apparaît bienveillant, et pour autant, est-ce que juridiquement il est tuteur ou non ? Donc là, déjà, oui, il est tuteur, d'accord. Et tuteur des deux. Mais pour autant, il y a quand même un espace de liberté, puisque Ginette dit bien qu'elle ne veut pas être en structure et qu'elle veut rentrer chez elle. La procédure collégiale, là on voit bien qu'il y a une opposition majeure entre les chirurgiens et une équipe oncologue et gériatre. Et puis surtout, ce qui me gêne, c'est que si on suit la loi, la procédure collégiale retient bien le collège des médecins. Or, qui connaît le mieux Ginette ? L'aide-soignant qui est au contact tous les jours. Peut-être l'ASH qui va l'aider à se mobiliser ou faire le ménage. La procédure collégiale ne retient pas le point de vue des psychologues. L'idée même d'une personne extérieure au service n'est pas retenue. Donc on voit déjà que dans la loi, on invite le médecin à réfléchir, mais en même temps, on protège bien le médecin. Donc, dans le dialogue, je dirais, oncologue, gériatre versus chirurgien, il y a une sorte d'exclusion, voire de monopolisation de la parole. Troisième réflexion sur ce cas, il me semble, c'est la temporalité. On voit bien qu'il y a trois temporalités. Il y a une temporalité plutôt d'urgence, pour être certain que ça ne va pas être délétère pour Ginette. Et puis, de l'autre côté, il y a plutôt « prenons le temps ». En même temps, n'oublions pas que Ginette a 88 ans. Et puis, un temps non médical, un temps non objectif, qui est celui de Ginette, qui, à mon avis, lui échappe totalement. Je ne suis pas certain qu'elle soit dans une saveur existentielle, dans une durée incarnée, puisqu'on voit bien qu'elle entend, d'après ce que vous disiez, elle est plutôt du côté de la personne qui a parlé de la dernière façon. Donc on voit bien ici que la situation, elle est singulière tous les jours, et on ne peut pas objectiver un élément. Quatrième remarque sur ce cas, il me semble que se pose la question du lieu. Et... imaginez, pour des raisons très bienveillantes, hein, j'entends bien la position du neveu, mais imaginez le placement de Ginette en EHPAD. Il y a toute la symbolique de l'EHPAD pour personnes âgées dépendantes, donc avec un rejet. On nous parle aussi de plus en plus des aidants naturels. Alors est-ce que le neveu peut être seul un aidant naturel pour deux personnes, puisqu'il a lui arriver dans sa vie au quotidien deux personnes. Je pense que le lieu ici est très symbolique et le maintien à domicile me semble problématique. Et en même temps, est-ce qu'il y a d'autres choix dans les structures hospitalières et sanitaires en France? Malheureusement, le choix aujourd'hui est relativement limité. Et le maintien à domicile qu'on nous promet rapidement avec les aidants naturels demande à être organisé et à être précisé, puisque je ne suis pas certain, je vois pas mal de mes étudiants qui sont là. Vous imaginez que dans 20 ans, papa, maman débarquent en étant dépendants avec une aide ponctuelle le matin, le soir. Ça interroge le lien social, ça interroge la place de la personne âgée. Donc ça, c'est important, puisque je ne suis pas certain que la société française soit prête au débat là-dessus. Cinquième remarque, c'est le principe ici d'autonomie. On voit bien que le principe d'autonomie est en quelque sorte, je dirais, confisqué par le neveu. On voit bien qu'ici, la liberté, on l'entend, mais en même temps, c'est plutôt le tuteur qui apparaît bienveillant. Comment faire exister une norme personnelle, une position de libre volonté de la part de Ginette, en sachant qu'il y a des troubles cognitifs sévères et il n'y a pas de personne de confiance, à part une position tutorielle juridique, et évidemment, il n'y a pas de directive anticipée. Bien sûr. Alors, je me méfie de cette personne de confiance qui est désignée, puisque est-ce que c'est la personne à prévenir? Ou est-ce que c'est une personne qui va véritablement dialoguer? Oui, mais c'est important. Quand vous arrivez à l'hôpital et que vous remplissez immédiatement le papier, c'est pour tout de suite remplir le papier. C'est pas vraiment une... Normalement, il y en a deux, mais voilà. Dans la manière dont c'est fait, une belle étude qui avait été faite au CHU de Brest en soins palliatifs montrait qu'il fallait 3 jours pour se positionner sur des soins palliatifs chez Bols. Le docteur Renaud, qui est une réanimatrice. Sixième remarque, le principe de bienfaisance. Alors apparemment, le neveu est bienfaisant, très bien. Mais pour autant, est-ce que les troubles cognitifs vont évoluer? Apparemment, la stabilité n'est pas véritablement avérée. Mais en même temps, on nous dit qu'elle est guillerette, qu'elle participe, que l'équipe soignante est très attachée. Deuxième chose, on voit qu'elle a été dénutrie, qu'elle reste encore fragile sur le plan organique. Donc, est-ce que l'opération est bienveillante ou pas? Je ne suis pas certain. Est-ce que, également, dans la bienveillance, la légitimité du traitement chirurgical se fait jour? On voit bien que la cicatrice qu'on va lui faire, ça va être une mutilation, si elle cicatrise dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, et se pose la question, bien sûr, vous l'avez dit, Eric, des escarres, mais aussi, évidemment, des infections. Et des infections, à son âge, on peut imaginer des problèmes surinfectieux, des problèmes de globes vésicaux, on peut imaginer une dérégulation des systèmes de température ou autre. Donc au final, on est bienveillant ou on est malfaisant? L'opposition est fragile ici. Et enfin, dernière chose, c'est le principe de dignité et le principe d'absolu respect de la personne de Ginette. On voit bien qu'il y a deux options, vous l'avez très bien dit. Ginette, est-ce que c'est un colon? Donc une totale réification du corps, c'est-à-dire qu'on relativise la dignité de Ginette à un côté physique, ou alors à un côté psychique, des troubles cognitifs, ou alors à un côté, est-ce que ça vaut encore le coup ? Donc on relativise. Ou alors est-ce qu'on maintient une absolue dignité, un absolu respect ? Et là, comment faire ? Comment faire puisque la cellule familiale est fragile, les troubles cognitifs sont avérés. Donc là, on n'est plus sur des représentations de morale personnelle que sur réellement un concept opérant. Voilà un petit peu ma lecture rapide que je voulais vous proposer.
J'ai envie juste de vous poser une question. Et alors, vous faites quoi ?
Alors, moi, c'est très facile. Je suis prof de philo. On ne m'appelle jamais, donc je ne fais rien.
L'intérêt, c'est de sortir un peu de sa position aussi. Chacun avec sa propre histoire, sa propre formation. Vous voyez, vous avec vos repères. Est-ce que vous nous avez très joliment dit ? Voilà, finalement, vous faites quoi ?
Alors, on va imaginer que Ginette n'est pas à Paris, mais elle est à Poitiers. Le militant de la dignité pour lequel vraiment je suis très très attaché serait plutôt pour le maintien à domicile de Ginette avec une hospitalisation à domicile. On parle pas beaucoup des soins palliatifs. Je rappelle que obstination déraisonnable, ça va de pair avec des soins palliatifs. Attention, les soins palliatifs, hein, c'est pas on fait dodo, on n'est pas shooté, la morphine, c'est pas que ça. Hein. Les soins palliatifs, ça c'est 10% ce que je viens de dire. C'est l'accompagnement, c'est le suivi. Et là, on peut imaginer des structures. Vous me demandez, on est bien dans l'idéal, mais voilà ce que moi j'aurais fait, en sachant que je n'ai pas les compétences et que je ne suis pas médecin, que je ne suis pas décisionnaire.
Mais c'est ça, c'est en cela que c'est.
Donc le problème, c'est que elle va être seule toute la journée, si jamais on lui fait une hospitalisation à domicile, parce que on peut pas remettre son fils avec elle, dans la mesure où c'est elle qui faisait tourner la boutique et qu'elle est depuis devenue complètement grabataire et donc elle va être seule à la maison avec au mieux un passage le matin, un passage le soir, et qu'elle n'est absolument pas au stade du palliatif, au sens de la fin de vie. Hein. Et donc, pour l'instant, elle va bien du moment qu'on lui fait les soins minimums et qu'on l'alimente. Voilà. Et donc, nous, ce que nous dit le neveu, c'est que la mettre à la maison, dans son ancien appartement, toute seule au lit, avec quelqu'un qui passe une demi-heure par jour, est-ce que c'est vraiment ça, la respecter dans sa dignité ?
Mais l'idéaliste que je suis, voilà, imagine des structures associatives, des passages. Mais j'ai bien dit idéaliste. Hein.
Vous voulez rajouter avant qu'on discute ?
Justement, vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on est prêt à ce débat aussi ? Parce que c'est ça la question aussi concernant Ginette. C'est qu'il y a un manque de structure. C'est quand même, on est confronté. Alors, nous, en oncologie au quotidien, même pour les patients qui sortent d'hospitalisation, voilà, il y a 2 soins de suite sur le département.
Poussez un tout petit peu plus loin, si on peut dire. On le sait qu'il manque. Alors, qu'est-ce que vous, puisqu'on sait qu'il manque de services de soins palliatifs...
Moi, je pense que la question devrait être prise justement en amont. On devrait vraiment ouvrir le débat pour permettre qu'il y ait de plus en plus de structures.
C'est un autre débat. C'est face à une patiente. Voilà. Vous savez qu'il n'y a pas de services de soins palliatifs, qu'il n'y en a pas assez. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas dire... Bon, on est dans un monde idéal où il va y avoir... Il faut qu'elle attende 10 ans et ce sera mieux.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça le... Qu'est-ce qu'on fait dans ce...
Je peux vous répondre la même chose que tout à l'heure. Ouais. Je demande à Ginette, on prend le temps d'essayer de penser un petit peu, de voir un peu avec tous les acteurs. Je peux vous répondre ça. Mais si vous voulez, par contre, il y a quelque chose dans la clinique du quotidien là, que je peux vous ramener, c'est qu'effectivement, cette question de l'EHPAD est très apeurante pour beaucoup de personnes. Et que parfois, alors c'est pas pour tout le monde, quand ça se questionne un petit peu de quelle est la représentation de l'EHPAD, et quelle EHPAD particulière d'ailleurs, parce que parfois les familles vont en choisir une, justement, pour que ce soit le mieux pour le patient, et vont rencontrer les soignants pour voir leur disponibilité. Voilà, tout ça, ça se questionne aussi, et parfois les gens finalement choisissent ça, l'EHPAD, parce que c'est une meilleure qualité de vie. Vous voyez, c'est très variable,
tout à fait,
ça aussi.
Tout à fait. Non, c'est pour ça.
Mais c'est pas tant une question pour moi de qu'est-ce qu'on fait au sens de structure. Pour moi, c'est est-ce qu'on est prêt à vivre avec des personnes qui sont dans une temporalité qui est autre que celle qu'on nous demande aujourd'hui, c'est-à-dire une temporalité qui n'est pas la rentabilité, qui est une vieillesse, qui va avoir des troubles cognitifs ou autres. On pourrait imaginer des familles d'accueil, on peut imaginer, il y a beaucoup de choses qui existent en Suisse, qui existent en Belgique, qui existent au Canada. Le problème, c'est que nous vivons dans une société qui n'est pas prête à ce débat. Est-ce que nous sommes prêts à vivre avec la personne âgée ?
Alors, à vous, un petit peu, on va passer avec... Vous donnez, et puis si vous intervenez, tout le monde intervient, voilà. Que ça soit en réaction à cette histoire ou que ça soit pour des, voilà, pour autour de ces thèmes-là, il n'y a pas de.
Mais je voulais intervenir sur le cas lui-même, c'est-à-dire que en fait, j'ai l'impression qu'on est un peu.
Est-ce que vous pouvez dire qui vous êtes pour Stéphanie qui essaye de prendre des notes?
Oui, je m'appelle Luc Bonnet. Et par ailleurs, je suis adhérent à l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Mais ceci dit, ce que je ne comprends pas dans votre cas, c'est que, pour moi, la question de la fin de vie et de la décision médicale, je parle bien de la décision médicale, c'est le maintien artificiel ou pas de la vie. Or, dans ce cas de Ginette, ce n'est pas la question. Parce que dans les deux cas, c'est une décision médicale, au sens, est-ce que ça vaut le coup d'opérer cette personne ou de la laisser en l'état. Et donc, du coup, on dérive, et je trouve ça le débat très intéressant sur la vieillesse, la question des EHPAD, etc. Mais on n'est pas dans le cas, en tout cas, pour lequel moi je suis venu ici, c'est la fin de vie, c'est-à-dire une décision thérapeutique, une décision médicale, d'un pouvoir médical, d'une certaine manière, qui impose un maintien artificiel de la vie. Dans le cas Ginette, ce n'est pas le cas. C'est soit on l'opère, soit on la maintient en l'état en se posant des questions qui sont très importantes, sociétales, sur l'accompagnement de la vieillesse, des personnes dépendantes, etc. Voilà, je voulais faire cette remarque sur l'exemple qui me semble finalement un petit peu à côté, en tout cas de ce que j'attendais de ce débat.
Une réaction, Véronique ? C'est vrai.
Vous avez tout à fait raison. Nous ne sommes pas en face d'une situation de fin de vie. C'est clair. De fin de vie au sens où on définirait la fin de vie comme les 3 semaines précédant la mort. Nous ne sommes pas dans cette situation-là. Mais je vous rappelle que l'obstination déraisonnable dans la loi ou l'acharnement thérapeutique ne se résume pas à la situation de la fin de vie. Et donc, sur le thème acharnement thérapeutique ou obstination déraisonnable, la question se pose tous les jours, bien avant la fin de vie, et dans des tas de situations cliniques autres que celles des 3 semaines précédant la fin de vie. Et donc, l'obstination déraisonnable du patient inconscient avec le traitement, avec le maintien d'un traitement, enfin, pardon, avec la poursuite d'un traitement qui maintient artificiellement en vie, oui, c'est une définition, mais ce n'est pas la seule situation dans laquelle on est interrogé, nous, cliniciens au quotidien, sur est-on dans l'obstination déraisonnable ou pas.
Merci.
Marc Auriard, une question par rapport à l'histoire qui est produite. On a l'impression que toute la réflexion se fait à un temps qui est un peu passé. La décision du chirurgien se fait sur un élément technique qui dit si j'opère, vu la radiothérapie qui a eu lieu, ça ne va pas cicatriser. Mais tout ça, on le savait au moment où on a décidé, premièrement, un acte de lever de l'occlusion, c'est-à-dire l'anus artificiel, mais surtout ensuite la décision de chimiothérapie, radiothérapie, et puis ensuite la décision de chirurgie qui ferait suite. En disant une chose que j'ai retenue dans l'histoire, c'est que cette stratégie devait permettre la guérison. Cet élément de guérison est quand même important à prendre en compte dans la décision, car tout le chemin qui a été décrit ensuite dans la discussion était plutôt un chemin péjoratif, très négatif. Mais au départ, la décision qui a été prise était une stratégie qui devait permettre la guérison. Alors j'ai bien compris, la guérison d'un organe n'est pas forcément la guérison de la personne. Mais tout de même, toute cette réflexion qui se fait au moins un an après le début du traitement. Un traitement qui est très lourd à l'âge qu'elle a. Subir la chimiothérapie, la radiothérapie. Tout ce questionnement, à mon sens, devait se faire avant. Donc ma première réflexion, c'est que dans cette histoire, la réflexion, on a perdu du temps. Ensuite, je pense que, pour revenir sur un point qui a été donné, je voudrais souligner aussi que lorsqu'une décision est prise, par exemple de ne pas intervenir, et qu'on se pose ensuite la question en se disant « oui, mais un jour, elle reviendra aux urgences et on interviendra », il faut bien positionner là le rôle de l'écrit. C'est-à-dire cette décision à un moment donné qui est prise, elle doit figurer quelque part afin qu'on ne se retrouve pas dans cette situation à un moment donné à 2h du matin un dimanche. Merci.
Merci.
Vous avez complètement raison et je ne peux qu'être d'accord avec vous. C'est-à-dire que là, comme je disais tout à l'heure, on est dans une temporalité qui était longue avec une Ginette qui vieillit, hein, comme chacun d'entre nous, et qui probablement a eu des soins à l'hôpital pour essayer de la rendre la plus en forme possible avec les résultats plus ou moins bons. Mais il n'empêche que le jour où se pose la question de cette chirurgie, eh bien, le chirurgien ne la trouve pas très en forme. Effectivement, le questionnement, il ne faut pas que ça soit quelque chose d'écrit et gravé dans le marbre, il faut que ça soit quelque chose de dynamique et qu'on se repose toujours les mêmes questions. Mais il faut bien sûr que ça soit tracé par écrit, sans pour autant que ça soit une décision qui soit gravée, comme je vous disais. Et bien évidemment, si on décide de ne pas l'opérer, libre après au chirurgien, en son âme et conscience, de se dire « Ok, il y a eu cette décision-là, mais peut-être que moi, lorsque je la reverrai dans un an, alors qu'elle aura intégré un cadre de vie qui lui serait adapté, et là, je sais bien que voilà, je pars dans un débat idéaliste, et je pense qu'on, pour faire ce métier, il faut être optimiste et idéaliste, mais peut-être qu'au bout d'un an, elle aurait été mieux, et que ce propos qui s'était tenu un an auparavant, eh bien, il aurait été obsolète. Et si on a oublié de se reposer les questions, de réactualiser ce projet de vie, ce projet de soins, peut-être que le chirurgien, lui, peut décider de se positionner autrement, en prenant des risques, bien évidemment. Mais l'enjeu est important, finalement. Il y a un enjeu de vie. Donc, effectivement, c'est un débat qui reste ouvert. C'est un débat où, clairement, il n'y aura pas de bonnes réponses, parce qu'il y a autant de bonnes réponses que de personnes. Mais, et vous voyez bien que chaque personne peut aussi changer d'avis, et c'est important de pouvoir les entendre.
Merci. Juste, je voudrais poursuivre ce que disait monsieur, c'est que, l'air de rien, vous dites que la question d'acharnement thérapeutique ou d'obstination, elle se pose trop tard, quoi. Il fallait la poser avant, quoi. Donc, vous prenez souvent le mot temporalité, voilà, mais bon. Non, elle se pose quand pour Ginette, cette question, vous voyez ? Quand est-ce qu'elle se serait bien posée ? À quel moment ?
Je voulais en dire quelque chose parce qu'effectivement, je pense que c'est... Enfin, nous, dans l'hôpital, dans le fonctionnement, je pense que ça nous paraît logique et peut-être pas quand on est en dehors. C'est qu'au moment, j'imagine, où cette proposition thérapeutique, elle a été faite de chimiothérapie, radiothérapie, effectivement, c'est un long processus, et de chirurgie, il y avait des signes cliniques qui faisaient dire... Voilà, à tous les médecins présents, que c'était possible pour Ginette et pour son corps à ce moment-là de supporter en fait ce traitement. Et il se passe souvent ça au quotidien en fait à l'hôpital, c'est que chemin faisant en fait avec des infections possibles ou en fait je sais pas, Ginette peut-être se remet pas bien, alors elle mangeait bien, c'est important déjà, mais peut-être pas suffisamment ou pas comme pour une autre personne, et ben en fait la question se repose justement. Mais au moment donné où la décision elle est prise, il y a j'imagine, une réflexion qui a été menée, c'est ça, dans le quotidien. Et la situation de Ginette a changé, c'est pour ça qu'elle se repose la question.
Peut-être que je peux être un peu provocante. Moi, je dirais volontiers qu'il n'y a pas d'acharnement thérapeutique dans cette situation-là, parce que probablement qu'effectivement, la logique médicale voudrait qu'on complète la stratégie thérapeutique jusqu'au bout, mais que peut-être il y a obstination déraisonnable. Voilà, c'est en cela que m'intéresse le titre, parce que la logique médicale, une fois de plus, c'est que oui, probablement, elle peut supporter les trois traitements à suivre, et que si on en a fait deux, la logique, c'est de faire le troisième, puisqu'elle a bien supporté les deux premiers. Vous voyez, donc, je pense que c'est dans cette perspective très, très médicale qu'a été initialement posée, décidée la stratégie thérapeutique en trois volets. Et puis, à un moment donné, on s'est posé la question, au-delà de l'acharnement thérapeutique, de quel est le sens de ce qu'on fait pour cette dame-là et pour son avenir. C'est quoi le sens de tout ça ? C'est quoi le sens dans son histoire à elle, etc. Tout ce que vous avez dit depuis. Hein ? Et là, on voit qu'on ne répond plus tout à fait la même chose. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant dans le basculement, peut-être, d'un terme vers l'autre.
Mais juste pour continuer avant de vous donner la parole. Donc, parce que pour toi, l'obstination déraisonnable, ce n'est pas que l'obstination thérapeutique. clinique.
Oui, pour moi, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu, qui sont l'histoire de la personne, son vécu, ce qu'on va lui permettre de vivre, et comment la vie qu'on va lui permettre de vivre va être dans la continuité et de ce qu'elle a vécu avant, et va lui convenir, et va répondre à ce qu'elle souhaite. Et ça, ce sont des éléments qui ne sont pas que médicaux.
J'aimerais apporter juste un point de précision. Je vous interromps, j'en suis désolée, mais j'aimerais juste apporter un point de précision. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'INCa, donc l'Institut du cancer, développe des plans cancer, donc dans le cas des grands enjeux ministériels par rapport à la santé. Et le plan cancer qui est en place depuis 2014 a très clairement établi la place de la RCP, de la réunion de concertation pluridisciplinaire et de la nécessité d'une évaluation globale avant de décider des soins à proposer aux patients. Et j'insiste bien sur le mot « proposer », c'est-à-dire que, bien évidemment, les médecins sont détenteurs d'un savoir, mais ce savoir, ce n'est pas un savoir absolu. Et le patient a sa place pour décider. Et c'est important qu'avant que tout ce traitement ne soit décidé et ne soit commencé, que l'on puisse entendre tous ses interlocuteurs, entendre le patient, entendre son entourage. Et c'est à ça que sert aussi la consultation d'annonce. C'est à ça aussi que sert à établir des liens avec le médecin traitant que l'on n'a pas mentionné là, qui peut-être était assez peu consulté, hein, vu la personnalité de Ginette, mais qui est finalement le médecin qui connaît le mieux la patiente, qui aurait pu être consulté pour être en adéquation avec ce qu'avait prévu Ginette pour ses jours vieillissants.
Oui, j'aurais voulu rebondir sur Oui, je suis Josiane Le Reste. Et je suis au départ infirmière puéricultrice et j'ai travaillé avec des enfants handicapés et des parents. Et donc, ça me rappelle des histoires par rapport à à Ginette qui a un enfant trisomique. Et tous les parents que j'ai pu rencontrer avec des enfants handicapés ont une angoisse terrible lorsqu'ils vont disparaître, de laisser leur enfant seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, alors, on peut tout imaginer, à savoir que pourquoi elle n'a pas appelé les secours. Est-ce qu'elle a pu ou est-ce qu'elle a voulu peut-être mourir avec son fils qu'elle ne veut pas lâcher? Voilà, c'est des questions que je me pose.
Ce qui montre bien que voilà, ce sont ces concepts-là. On voit aussi à des histoires de vie très particulières.
Marion Scoben, j'étais infirmière dans des temps passés, surtout en gériatrie. Moi, la question que je me demande, c'est pendant sa convalescence, là, on l'a dit guillerette, etc., elle ne pose pas trop de problème, mais elle n'est plus dans la demande de voir son fils, parce que j'en vois des personnes qui, effectivement, ne se remettraient pas du tout tant qu'elles ne sont pas avec leur fils. Et au niveau d'une structure, moi, je me disais, c'est vrai qu'on manque d'imagination et de nouveauté dans les structures, mais pourquoi est-ce que c'est aussi si rigide dans nos EHPAD? On pourrait imaginer qu'un fils qui a 54 ans... trisomique, il peut y avoir une dérogation à mon avis pour qu'elle soit avec elle, et alors là il y a une préparation psychologique à faire pour aller visiter les lieux, se rendre compte, passer quelques jours ou quelques journées pour se rendre compte, mais peut-être que le fait d'être avec son fils ferait qu'elle accepterait finalement d'être en EHPAD et sécurisée. Alors je ne sais pas, voilà.
Vous soulignez effectivement quelque chose de très important, de savoir déjà pourquoi est-ce qu'elle ne voulait pas aller en EHPAD.
Essayons de rester quand même sur
certaines personnes,
sur le thème.
Effectivement, il y a l'enjeu financier. Il y a certaines personnes qui s'imaginent que les EHPAD, tout comme les services de gériatrie, sont des mouroirs parce qu'ils ont eu des expériences personnelles dramatiques qui vont coller une étiquette à ces lieux, alors que les choses évoluent, les choses changent. Et je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir la questionner pour savoir pourquoi ce non catégorique et à l'hôpital, par exemple, au CHU de Poitiers, on a la possibilité pour les patients qui sont hésitants ou opposés à leur faire visiter les lieux. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, avec notre ergothérapeute, avec notre assistante sociale, d'emmener le patient dans la structure même pour qu'elle puisse se faire son idée et avoir une idée réactualisée. Surtout si c'est une dame qui a vécu cloîtrée chez elle et qu'elle n'avait pas été en lien avec des maisons de retraite médicalisées. Ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'enfant, au fils, qui a moins de 60 ans, et 60 ans, c'est l'âge minimum pour intégrer de façon légale, entre guillemets, un EHPAD. Mais bien évidemment, il existe des dérogations qui sont longues, bien évidemment, à mettre en place. Mais j'ai envie de vous dire, là, ça fait déjà 15 mois qu'elle est à l'hôpital, donc on n'est peut-être pas quelques mois près pour lui garantir bien une vie, des jours tels qu'elle le souhaite, tout simplement.
Merci, mais excusez-moi d'être un peu correcteur, mais essayons de rester sur, non pas sur la prise en charge, les EHPAD, parce que c'est bien, pas bien, etc., parce que mais voilà, sur cette question, comme d'ailleurs le disait Véronique, là, on n'est pas dans l'acharnement thérapeutique, mais plutôt dans éventuellement l'obstination des raisins, sur cette problématique assez compliquée. Et puis voilà, s'il y a des histoires, voilà, il y a juste, je vous le donne tout de suite, là, il y avait monsieur.
Merci. Bonsoir, je vous remercie pour ce débat. Je suis désolé, je vais peut-être être un peu provocateur, mais en fait, moi, je trouve ça super intéressant. Donc, on a deux psychologues, on est en plein sur l'individu, mais moi, quand on me parle de guérir à 88 ans et quand on me parle d'avenir à 88 ans, je suis désolé pour les personnes de plus de 80 ans, ça me pose quand même question sur quel avenir on peut espérer. Et je pense qu'il manque un intervenant aujourd'hui, bah, c'est l'économiste. Parce que, honnêtement, vous pouvez... Non, mais juste pour vous dire, hein, moi, je travaille à l'hôpital, je fais de la sociologie. Il y a quelque chose qui se développe énormément. On peut être pour, on peut être contre, peu importe. En fait, c'est juste une position pragmatique. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un système économique restreint. Enfin, on est aussi dans une planète qui a des ressources qui sont limitées. On sait qu'il y a un déficit au niveau de l'assurance maladie. On sait qu'il y a plein de petits problèmes comme ça qui s'appellent les problèmes économiques et qui sont des problèmes terre à terre. Et aujourd'hui, quel est le coût d'une chimiothérapie? C'est quoi? C'est 40 000, 50 000 euros pour ça?
Il y en a qui coûtent 12 euros. Ça dépend des traitements.
Mais à combien ça reviendra avec l'hospitalisation? C'est quoi une journée d'hospitalisation?
Ça
c'est
dépend des services.
D'accord. Et à Poitiers, c'est combien?
Non, mais ça dépend des services. Si vous êtes en gériatrie ou en oncologie ou si vous êtes en soins de suite, ça ne coûte pas la même chose.
Parce que j'ai regardé rapidement la moyenne selon le grade du cancer. On arrive à 30, enfin c'est quoi, c'est le moins cher, ça fait 12 000 euros en prise en charge. Et tout à l'heure, il y avait une réflexion, c'était presque, on est prêt à l'opérer parce que ça va lui permettre de ne pas forcément aller nécessairement à l'EHPAD pour lui rajouter 6 mois d'hospitalisation. Mais combien ça coûte et comment est-ce qu'on ne pourrait pas, pour revenir sur le débat d'aujourd'hui, penser seulement l'éthique de la fin de vie comme étant une éthique individuelle, mais comme étant aussi une éthique collective de la vie en collectivité parce qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi besoin de soins. Voilà, mais je suis désolé de penser ça m'embête. Hein.
Alors, On a la possibilité, 88 ans, espérance de vie pour une femme, on est à peu près autour d'entre 85 et 86 ans. Donc on peut carrément imaginer une abstention totale thérapeutique. On peut imaginer, on raisonnerait pas tant sur le plan pragmatique, on serait plutôt ici utilitariste. Deuxième chose que vous pointez, c'est que utiliser l'argument économique, encore faut-il le savoir le positionner. Est-ce que vous le mettez en première catégorie? Alors là, si on prend l'argument économique, on va faire beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup d'économies se placent. La question de la personne handicapée, quand est-ce qu'on est non rentable? Quand est-ce que vous, dans votre job, vous serez non rentable et vous serez foutu à la porte parce que pas suffisamment rentable économiquement? Donc, individuel ou collectif, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment la question. La question est où l'argument économique joue. Est-ce que ici, on a le choix entre une thérapeutique efficace mais trop chère et une autre alternative tout aussi efficace mais moins chère? L'argument économique me semble recevable. Mais quand vous dites individuel ou collectif, dites plutôt que éthique, liée à l'autonomie du patient versus une éthique anglo-saxonne où on raisonne uniquement en termes d'utilité. Est-ce qu'on peut aujourd'hui uniquement raisonner en termes d'utilité? Est-ce que tout peut être rapporté à de la production, à de l'objectivité ou autre? C'est un choix très 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 important. Et libre à vous de penser ça. Moi, je pense au meilleur des mondes. Je pense à George Orwell de 1984 et c'est pas le monde dans lequel je veux vivre.
Véronique, juste un point de pas de détail, mais est-ce que, par exemple, dans cette histoire-là, les différents acteurs intervenants ont évoqué l'argument économique ? Ou est-ce que c'est apparu dans leur...
Non, absolument pas. Absolument pas. La seule question qui a été posée, c'est si elle va en EHPAD, est-ce qu'elle a les moyens de payer l'EHPAD ? Voilà. Et donc ça, ça a été quand même évoqué. Mais le neveu a dit qu'il n'y avait aucun souci, qu'elle avait une retraite convenable et qu'elle pourrait tout à fait payer l'EHPAD.
Mais est-ce que vous avez le sentiment, vous, les psychologues dans votre service, par exemple, est-ce que c'est parfois l'argument économique affleure dans les décisions, dans les choix ? Est-ce que vous trouvez qu'on est dans un moment un peu de... ou pas du tout, c'est tout ?
Alors, je vais vous donner un exemple très concret qui date de mercredi, le dernier staff institutionnel où prennent place en fait les médecins de tout le pôle de cancérologie et les psychologues. Voilà, le chef de pôle a rappelé par exemple que telle ou telle chimiothérapie avait tel ou tel prix, non ? Et que en fait l'enjeu c'est... Par exemple, tel ou tel médicament qui a la même efficacité là, au niveau des résultats et un coûte moins cher que l'autre, évidemment, le moins cher est choisi. Par contre, si un médicament coûte 40 000 euros, alors je le dis de manière très hasardeuse, et qu'il permet à quelqu'un de vivre avec une bonne qualité de vie, allez, 2 ou 3 mois en plus, peu importe, eh ben, ils vont quand même le prescrire. Voyez ? Parce qu'effectivement, normalement... Moi, j'ai envie de vous dire, dans mon éthique à moi et dans l'éthique globale quand même des médecins que je côtoie, ils se situent là, effectivement. L'argument économique vaut, on peut l'entendre, mais il est placé en dessous de l'argument humain, j'ai envie de vous le dire comme ça.
Oui, à part que là, on est dans un monde un peu idéal, parce que on peut, ça s'inscrit aussi dans des histoires, surtout sur le cancer, avec les traitements extrêmement chers, qui améliore de 15 jours, 3 semaines, etc. Mais comme le disait un jour un médecin, si dans les 15 jours ou 3 semaines, la personne a besoin de rester en vie parce qu'elle veut accompagner, je sais pas quoi, son fils ou sa fille qui se marie, c'est pas rien. Pour d'autres, voilà, c'est 15 jours, ça renvoie un petit peu au début de... Tout ça reste aussi lié à des histoires, mais c'est vrai qu'en plus, c'est très différent. Madame, je crois que vous vouliez...
Bonjour, Régine Gerberon. Je voudrais juste, en mettant le mot juste entre guillemets, savoir dans le cas précis que vous évoquez, qui va décider, surtout quand. Est-ce que ça peut traîner des années comme le cas Lambert dont on parle tant ? Ou là, dans le cas précis, où ça en est, quand ça va aboutir ? Enfin, un petit peu plus, j'aimerais savoir un petit peu plus sur ce cas-là, s'il vous plaît.
Écoutez, je comprends très bien, mais l'idée de ce travail, c'est de ne pas vous donner la réponse de ce qui va être décidé et de vous faire simplement sentir que la question se pose et que les deux pistes sont possibles. Après, ça appartient à l'équipe et à la patiente et au neveu de décider. Nous, ce que nous avons fait, c'est essentiellement de les remettre en dialogue parce qu'au fond, la question qui nous a été posée à nous, elle n'a jamais été posée dans ces termes au neveu. Elle a été posée à la patiente qui avait du mal à elle-même répondre. Et comme je vous l'ai dit, elle disait essentiellement, écoutez, faites le mieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. C'est quand est-ce que je retrouve mon fils et ma vie. Hein? Et voilà. Et le neveu, lui, on ne lui avait jamais dit un peu quels étaient les tenants et les aboutissants médicaux et de qualité de vie des deux options possibles. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a poussé à ce que ce dialogue se réinstaure comme cela et à ce que la décision reparte avec ces éléments de réflexion supplémentaires. Mais c'est pas... Je ne voudrais pas qu'on porte un jugement sur une décision alors que nous sommes en dehors du champ, en dehors de l'hôpital, en dehors des soignants qui vont décider, etc. Donc je ne vous donnerai pas la réponse de ce qui a été décidé finalement. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a quelque chose qui a été décidé, dans un sens ou dans l'autre. Parce que la clinique, c'est ça. Ce n'est pas du tout la même histoire que l'histoire Vincent Lambert qui, d'une certaine façon, peut rester suspendue dans le temps pendant très longtemps de façon stable. Hein? Là, malheureusement, la situation, j'allais dire, n'est pas stable.
Je voudrais juste ajouter quelque chose. Justement, je crois que l'enjeu, c'est de ne pas avoir, en tout cas maintenant, je le veux bien après, la fin de l'histoire de Ginette, la suite, là. C'est peut-être justement que de votre place à vous, vous sentiez cette tension-là qu'ont au quotidien les soignants, l'entourage. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Voilà. Et comment on supporte ça aussi, et de la place de chacun ? Si on a la suite de l'histoire, je crois que la tension, elle rebaisse. C'est pas du tout la même chose qui se joue.
Après, se pose un autre questionnement. C'est qu'on veut toujours coter, on veut toujours évaluer, on veut toujours objectiver. Sauf que on peut très bien changer. Est-ce que ce que l'on décidait, ce que l'on pensait il y a 10 ans, c'est encore valable aujourd'hui ? nous sommes mouvants. Et puis, deuxième chose, Ginette, on ne sait pas ce que représente pour elle la famille, la nourriture, le lien social, la rencontre à l'autre. Peut-être que c'est son choix de vivre en autarcie, et peut-être qu'on a aussi à respecter cela. On est toujours à vouloir coter et en même temps à plaquer nos représentations d'idéal, d'accompagnement, de vivre ensemble, mais si c'est son choix de vivre seul et de se laisser mourir, puisque j'entends bien comme madame une sorte de suicide plus ou moins organisé, de laisser faire, de pente douce, bref, syndrome plus ou moins glissement organisé. Et alors, est-ce qu'on n'aurait pas aussi à accepter cela? Et c'est compliqué, ça, dans cette logique de toujours vouloir aider, dans une logique de solidarité et de bienfaisance plus ou moins, allez, j'ose, dégoulinante.
Bonsoir, Céline Lemasson, infirmière en oncologie. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de projets de soins. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on questionne suffisamment le projet de vie? C'est-à-dire, est-ce qu'on se pose la question, c'est quoi le risque pour Ginette d'entrer dans une EHPAD? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a pris la décision de rester enfermée justement avec son fils? C'est quoi qui a motivé tout ça? Et en questionnant tout ça, on aura peut-être des éléments de réponse sur son projet de vie.
Bonsoir, je suis Sylvie Cafardi, je suis gériatre à l'hôpital de Montmorillon, à l'unité de soins de longue durée. Des personnes âgées, démentes, en fin de vie, j'en ai accompagné beaucoup avec mes équipes. Et ce que je peux dire, c'est que pour connaître la bonne décision, effectivement, il faut beaucoup d'écoute, savoir poser les bonnes questions, savoir attendre, savoir écouter, discuter avec la personne, discuter entre nous, avec l'aide-soignant, avec l'infirmière. Et éventuellement avec le confrère qui vient des soins palliatifs du CHU de Poitiers pour nous rendre visite une fois par semaine. Mais pour discuter, il faut du temps. Or, du temps de soignant, on n'en a plus. La raison économique n'agit pas. Ce n'est pas les soignants qui en parlent en choisissant tel ou tel traitement parce qu'il est moins cher. C'est la direction qui nous réduit notre personnel, qui n'a plus le temps de faire des toilettes, plus le temps de discuter. Et les unités de soins de longue durée, qui sont en fait des unités de soins palliatifs de longue durée, puisqu'on envoie là les personnes qui ne sont pas curables. C'est-à-dire, c'est des soins palliatifs qui ne durent pas 3 semaines, comme dans les unités de soins palliatifs, mais qui durent 3 mois, 3 ans. Eh bien, ces unités, ces USLD, sont fermées petit à petit, parce qu'elles ne sont pas rentables. Et où vont aller les gens qui nécessitent des soins lourds, comme Ginette, des soins de poche, des soins de cicatrisation? Eh bien, ils sortent. Et puis, comme à l'EHPAD, il n'y a pas d'infirmière la nuit, l'infirmière, elle n'a pas le temps de faire les pansements. Et à domicile, la chadée, elle ne peut plus. Parce qu'à domicile, il ne faut pas oublier, il n'y a plus de médecin traitant. Il n'y a plus d'infirmière libérale. À la ville de Châteauroux, 15 000 habitants n'ont plus de médecin traitant. Dans nos campagnes, les personnes âgées meurent parce qu'il n'y a plus de médecins pour renouveler leur traitement. Nous ne pouvons plus. Actuellement, la situation médicale et aide-soignante kiné, c'est une catastrophe en France. Toutes ces personnes âgées, toutes ces personnes en fin de vie n'auront plus l'écoute et les soins nécessaires, que ce soit à domicile ou à l'hôpital, où nous sommes tous extrêmement pris par le temps. Et donc l'euthanasie risque de devenir un palliatif au manque de soins palliatifs et de soins tout court, et aura une excellente impact économique, effectivement, parce qu'on n'a plus le temps d'écouter et de soigner les gens, tout simplement. On n'a plus de soignants.
Il en reste quelques-uns, mais juste ce que vous dites, en fait, c'est que la variable économique, ou cette question-là, de fait, la question qu'on se pose acharnement thérapeutique, ne se pose plus, puisque... Non, c'est ce que vous dites, hein, voilà. Ou quoi, c'est pas simplement de réfléchir, mais de, y compris de soigner. Il y avait quelqu'un, je crois. Pardon.
Madame Thévenet-Dominique. Madame Thévenet-Dominique, je suis retraitée. J'étais aide-soignante à domicile les 10 dernières années, hein, pas avant. Ma question pour cette personne, c'est... j'ai compris que dans le cas où elle serait opérée, elle aurait des problèmes de tous les problèmes de j'ai oublié le nom, d'escarres, de douleurs, etc. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est qu'est-ce qui lui arriverait si elle n'avait pas de cette dernière opération.
Alors, ce que nous ont dit les médecins, c'est que probablement son cancer évoluait depuis plusieurs années et qu'il avait évolué assez lentement et que probablement il continuerait d'évoluer assez lentement, uniquement localement.
Donc je vais préciser ma question, c'était est-ce que dans ce deuxième cas, elle resterait malgré tout au lit ou est-ce qu'elle aurait une autonomie, elle pourrait bouger et voilà, c'est pour moi, c'est quand même une grande différence.
Tout à fait. Eh bien non. Elle est grabataire pour des raisons rhumatismales en plus, d'arthrose très importante et de hanches qui n'ont pas été opérées, etc. Donc, elle resterait grabataire. Ils sont absolument formels là-dessus. Il n'y a plus de possibilité de la reverticaliser, de la faire marcher. Quelle que soit opération ou pas opération.
D'autres personnes qui veulent intervenir ? Ou, y compris, on peut tout à fait sortir de cette histoire qu'on vous a racontée, d'autres cas d'obstination ou de...
Juste, vous voyez que si elle avait écrit cette dame pas d'acharnement thérapeutique dans ses directives anticipées, ça ne nous aurait pas beaucoup aidé. Hein.
Colette Larouille, oui, je suis retraitée et je voulais parler aussi à propos des notions économiques et la place des médecins. De la place des médecins de ville. Parce que effectivement, bon, on en est à calculer combien coûte tel ou tel séjour à l'hôpital, mais le médecin de ville, lui, il n'est pas dans la décision collégiale quand il prend une décision. Et quand il prend la décision, parce que ça va beaucoup plus vite de faire une consultation de 10 minutes, de faire hospitaliser quelqu'un aux urgences, une personne âgée, hein, parce qu'on ne sait pas trop pourquoi tout d'un coup elle devient confuse. Là, on est aussi dans une problématique à la fois déontologique, économique et point de suspension. Parce que, en l'occurrence, ça occupe un lit, ça occupe du temps, ça, voilà, pour quelque chose qui, en fait, c'était juste une histoire de manque d'eau, quoi, tout simplement. Mais on aurait demandé à la personne comment elle avait vécu sa journée. On savait quelle était la réponse et on savait qu'il n'y avait pas besoin d'hospitalisation, par exemple. Bon, c'est cette place non collégiale du médecin traitant, moi, qui me paraît une problématique aussi qui coûte cher et qui pose exactement cette question-là de l'obstination.
Je pense que je vais être obligée d'intervenir et de rebondir sur ce qu'avait dit Mme Cafardi concernant les médecins de ville. Parce que vous vous doutez bien que le médecin généraliste, ça ne lui fait pas plaisir d'envoyer un patient de 90 ans aller passer 6 heures aux urgences, mais tout simplement parce qu'il n'a pas le temps. Parce que vous le voyez bien, les salles d'attente, elles sont pleines. Et lorsque vous appelez pour prendre rendez-vous, eh bien, les créneaux sont déjà pleins. Et le médecin généraliste, il est des fois obligé de renoncer à son déjeuner parce que votre petit dernier, il a absolument besoin de voir le docteur aujourd'hui. Et puis, il rajoute. Mais les journées ne font que 24 heures. Et puis ce médecin, c'est aussi un parent, c'est un homme, une femme qui a sa vie et qui ne va pas sacrifier sa vie parce qu'il a besoin d'exister en tant que personne. Alors effectivement, c'est très frustrant parce qu'on a l'impression que les médecins généralistes, ils vont vite. Mais malheureusement, ils font ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire qu'on est dans une position très confortable à l'hôpital parce qu'on a des collègues autour de soi, ce qui fait qu'on n'est jamais tout seul pour décider. On a des moyens humains, on a des moyens techniques. On se dit que, bon, finalement, si on ne le fait pas aujourd'hui, le patient, il serait toujours là demain. Mais vous voyez bien qu'en ville, le médecin généraliste, il n'est pas dans cette réflexion. Il faut faire tourner la boutique également, parce qu'il est chef d'entreprise, il est patron de son cabinet, et il faut que ça tourne pour pas qu'il soit obligé de fermer. Donc,
alors,
malheureusement,
beaucoup,
on
beaucoup,
est...
Alors, j'ai beaucoup, parce voilà. Que là, bon, médecine hospitalière, médecine de ville, hein, en tout cas, c'est sympathique que la médecine hospitalière s'inquiète de l'état de la médecine de ville. Mais en vous écoutant, je me disais, mais est-ce que, par exemple, dans nos questions, qui décide ? Est-ce que le médecin traitant devrait avoir une place particulière dans...
Le médecin traitant est trop rarement consulté dans ces cas-là.
Ah, mais voilà, mais là, je vous la question un peu générale. Est-ce que c'est, voilà, c'est dans cette question qu'on posait sur l'obstination, puisque le médecin traitant est censé plutôt bien connaître la personne, voilà.
Je crois que ça, pour le coup, ça dépend des services aussi à l'hôpital. Alors, c'est un peu étrange comme réponse. Ça ne devrait pas. Mais bah, y a certains médecins qui ont habitude de consulter les médecins traitants, d'autres peut-être moins. Alors, peut-être pour ces histoires de temps, je ne sais pas trop comment. Y a parfois des médecins traitants qui rentrent en contact. Alors, c'est arrivé avec nous, les psychologues, mais avec les médecins, quand le patient arrive peu à communiquer avec son oncologue, j'ai envie de vous donner l'exemple. Du coup, le médecin traitant, il vient un peu faire ce dialogue-là de lui-même, où il est appelé par l'oncologue pour effectivement ces décisions-là. Ça arrive, hein, dans la réalité, j'entends.
Madame.
Par rapport à qui doit choisir, qui doit prendre la décision, moi, je me pose aussi la question si cette personne répondait selon l'interlocuteur, hein, qui s'adressait à elle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est peut-être pas qu'elle était démente, c'était peut-être qu'elle ne savait pas quoi répondre. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si le chirurgien avait accepté l'opération de suite, est-ce qu'on serait posé toutes ces questions? Est-ce qu'elle n'aurait pas été opérée, point final? Et c'est parce que le médecin ne sait pas que là, on se tourne vers la famille, vers la personne, pour lui dire qu'est-ce que vous en pensez, vous. Mais c'est compliqué de répondre. Moi, je trouve que c'est une trop forte responsabilité qu'on fait porter au patient et à son entourage de devoir trancher. On a l'impression que les médecins se mettent en retrait et disent, ben vous, alors qu'est-ce que vous décidez? On fera ce que vous voulez. Je ne suis pas certaine qu'on soit toujours dans le bon prendre soin quand on agit de cette façon-là. Voilà. Et c'est pareil pour la personne de confiance. Je pense que c'est compliqué pour elle de répondre.
Les lois sont pourtant très très claires. Hein. On dit bien qu'il faut tenir compte de l'avis du patient et que le refus de traitement doit être entendu. Hein. C'est la fameuse loi Kouchner de 2002. Mais en même temps, le fameux temps dont vous parliez, est-ce que le médecin a le temps d'en parler, a le temps de proposer et ensuite dire je prends mes responsabilités et j'assume? Et deuxièmement, si le patient dit quelque chose et qu'en même temps l'expérience médicale montre qu'il vaut mieux faire quelque chose d'autre, pas forcément l'inverse, mais quelque chose plutôt de biais, c'est compliqué après en termes d'information et en termes de consentement. Donc là, se joue plutôt un espace-temps de discussion, un espace-temps qu'on n'a pas forcément et où quelquefois que certains médecins ne veulent pas, parce que c'est aussi très inconfortable à un moment de positionner les différents scénarios et d'assumer. Mais en même temps, dans la réalité, c'est très clair, hein, c'est le médecin qui prend la décision, qui a la responsabilité, qui répond de ses actes, au sens où il ne fait pas peser sur le patient un quelconque poids, bien évidemment.
Ce que dit madame est quand même extrêmement juste, c'est que quand il n'y a pas d'incertitude, le médecin décide, fait vite. C'est bizarrement, quand il ne sait pas quoi choisir, qui va faire peser la situation. On le retrouve dans plein de situations cliniques. Voilà, oui. c'est aussi normal, mais voilà.
Bien sûr.
C'est un vrai constat, et que pourtant, dans ces situations-là, peut-être que le patient aimerait que le médecin décide.
Oui, mais
c'est le paradoxe de la situation.
À J1, dire on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, qu'en pensez-vous? À J5, la situation a évolué, je propose plutôt solution 2, solution 3, qu'en pensez-vous? Voilà, ça c'est le travail du médecin au quotidien.
Jeanne Roxane, donc médecin. Moi, c'était plus une réflexion. Pour moi, on serait dans le cadre d'une obstination déraisonnable, si finalement on n'avait pas réfléchi à cette situation, si on avait appliqué bêtement une RCP, en effet, chimio, radiothérapie, chirurgie, et de ne pas se poser la question. Et finalement, là, on met en lumière l'importance de croiser les regards, et on sent bien la tension dans cette histoire entre le gériatre, qui est dans un peu un principe de bienfaisance, finalement, il veut bien faire. Et vous avez à l'inverse le chirurgien qui, lui, dans une idée de non-malfaisance, finalement, dans quoi est-ce qu'on s'embarque? Et là, on a un dilemme, finalement, auquel est-ce qu'on aura une réponse, une bonne réponse, je ne sais pas, mais on a l'importance de croiser les regards, en fait. Et est-ce que c'est la décision du seul médecin? Bien sûr que non. Il faut l'enrichir, de l'aide-soignant, du psychologue, de l'infirmière, de bien sûr Ginette, de son entourage. Et finalement, je pense que l'importance ici, elle est de croiser les regards. Oui.
N'empêche que même si on croise les regards, on est au-delà de la bienfaisance et de la non-malfaisance. On définit l'obstination déraisonnable par deux critères, le critère d'utilité et le critère de proportionnalité. Est-ce que l'opération, la troisième phase, est proportionnée ? Oui, RCP, discussion, adaptation. Est-ce qu'elle est utile ? C'est là où on est en train de discuter. Et plus on va attendre, plus l'utile va devenir inutile. Et c'est là où, justement, il faut bien poser le critère. Et il nous manque beaucoup de choses, les représentations, la vie, la famille, les habitudes, ses valeurs. Et là, ça manque pour pouvoir mieux hiérarchiser.
J'aurais aimé savoir si Ginette a rencontré un psychologue, si ça lui a été proposé, comment ça s'est passé.
Je ne sais pas si ça lui a été proposé. Je ne peux pas vous dire.
Moi, en tant que réanimateur, j'ai plutôt l'habitude de discuter d'obstination déraisonnable dans des situations qui sont plus proches de la fin de vie. Donc, dans ce cas clinique, ce qui est particulièrement compliqué, c'est qu'on n'est pas au bord de la fin de vie. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que finalement, l'enjeu médical, il est en quelque sorte pollué par la situation sociale qui va se poser dans les deux cas. Mais finalement, ce n'est pas là-dessus que je voulais intervenir. Je voudrais revenir sur le rôle du médecin et face à la volonté de mettre en main le patient face à ses choix médicaux. Donc je trouve qu'au point de vue de notre société, la volonté de dire aux patients vous êtes un adulte, c'est à vous de vous prendre en main et de prendre vos décisions, c'est très politiquement correct et c'est très bien. Mais par contre, je pense que quand le médecin il s'adresse à son malade, il doit avoir déjà sa propre opinion. C'est-à-dire qu'il ne doit pas compter. Moi, je ferai ce que vous voulez, parce que moi, je suis le médecin. Donc, je pense que c'est important quand on a ces discussions avec les patients et avec leur famille, qu'on ait déjà notre idée pour pouvoir justement, si le patient il est hésitant, changer de rôle et de reprendre le rôle de conseil en disant ben voilà les enjeux que je vous ai expliqués, mais je pense plutôt que ça, et qu'on ne soit pas retranché derrière l'alibi, c'est vous qui choisissez.
Je pense qu'en effet, ça, on ne l'a pas assez souligné, finalement, l'hésitation, vous dire, elle a lieu entre les médecins dans la RCP, et ensemble, ils décident de quelque chose. Le médecin, quand il rencontre un patient, il a une idée, lui, de quelle option thérapeutique lui semble, lui, en tant que médecin, la plus pertinente. L'enjeu, c'est de la proposer au patient. Par contre, la place du médecin, et ça, c'est très important, et ça concerne aussi Ginette, c'est à un moment de dire, moi, je pense ça, le chirurgien, il le dit, ils ne sont pas d'accord, les médecins, là, mais ils le disent. Et vous, qu'est-ce qui vous correspond, je vais le dire comme ça, à vous, Ginette, 88 ans, avec votre histoire de vie, en fait.
Véronique ?
Il me semble qu'il y a un certain nombre de gens dans la salle qui avaient effectivement plus dans l'idée de parler d'obstination déraisonnable vers la fin de vie. Et donc peut-être qu'il faudrait prendre quelques questions ou prendre le temps de répondre aussi sur cet aspect-là des choses. Vous vous sentez bien que dans l'attention sur l'histoire de Ginette, il y a quand même l'idée que si on ne l'opère pas, on la condamne quelque part. Parce qu'on sait que le cancer va reprendre et que alors, ce n'est pas une question de 3 semaines, mais c'est une question de quelques mois, probablement. Voilà. Donc, évidemment qu'il y a ce spectre, quelque part, de la mort qui rôde autour de cette histoire-là, même si elle est moins proche qu'en réanimation, comme nous le disait René tout à l'heure. Et pour revenir à la question qui nous a été posée il y a quelques temps sur obstination déraisonnable et fin de vie, oui, donc, on vous l'a redit, hein, la définition, c'est un traitement d'obstination déraisonnable, c'est quand le traitement n'a que pour seul intérêt, enfin c'est tous les traitements qui sont inutiles, disproportionnés ou simplement de maintien en vie. Hein, c'est ça la définition juridique officielle dans la loi de ce qu'est l'obstination déraisonnable. Et effectivement, lorsque il est décidé collégialement, il est discuté qui a obstination déraisonnable, que donc on va suspendre ou ne pas mettre en route un traitement parce qu'il répond à cette définition de l'obstination déraisonnable, ce que la loi demande, c'est que ce patient soit accompagné par des soins palliatifs à mourir de façon digne et sans souffrance. C'est ça que la loi précise. Et je voudrais aussi revenir juste sur la différence entre obstination déraisonnable et refus de soins. Tout patient a le droit de refuser un soin, quel qu'il soit, quel qu'il soit, et même s'il n'est pas considéré ce soin ou ce traitement comme déraisonnable par les médecins. Et si ce patient conscient refuse un soin de ce type, le médecin est absolument, le médecin, je parle de façon générique, l'équipe soignante en général, est obligée de respecter ce refus de la part du patient. Et si ce refus de soin doit entraîner ou met en cause ou met en risque le pronostic vital du patient, ce patient doit être accompagné par des soins palliatifs et doit être accompagné de façon digne et à ce qu'il ne souffre pas. C'est ça les termes aujourd'hui de la loi sur l'obstination déraisonnable et le refus de soins. Est-ce que vous avez des questions là-dessus sur lien entre obstination déraisonnable et fin de vie?
Madame.
Au sujet justement du refus de soins, quelqu'un de bien âgé qui fait une décompensation, se retrouve avec une infection pulmonaire, le cœur à bout de souffle, etc. Il est vraiment prêt d'y passer, comme on dit. Puis voilà qu'il y a un mieux, et on sent qu'il a tout d'un coup encore un désir de vivre. Mais en même temps, il refuse, par exemple, qu'on l'aspire, alors qu'il est super encombré. Alors moi, devant ça, on m'a dit, ce matin, il a refusé de s'aspirer. Je passe une bonne partie de l'après-midi vers lui, je me dis, pour moi, évidemment, ancienne infirmière, un patient qui a une difficulté respiratoire à ce point, tellement il est encombré, c'est difficile à supporter pour moi, je le conçois. Alors, je me suis dit, je vais essayer de lui expliquer. Il dit, un tel, je dis, tu veux, semble-t-il, tu tiens encore à voir du monde puisque tu es content des visites et tout ça. Si tu veux être plus confortable, il faudrait te laisser faire quand on t'aspire parce que sinon tu vas passer toute la nuit comme ça à ne pas pouvoir respirer. Bon, il n'était pas trop pour. Bon, moi je vais voir l'infirmière. Je dis, vous n'y arriverez pas seul, ça c'est évident parce qu'il va vouloir avec ses mains se débattre. Alors, bon, je lui dis, bon, écoute, je te tiens les mains, on va passer un mauvais petit quart d'heure, mais après, tu seras tellement mieux. Est-ce qu'on y va ou pas? Bon, il s'est laissé faire. Il s'est un peu débattu, mais bon, après, je dis, tu respires mieux? Oui. C'est là où, quand même, il faut pouvoir négocier, parce que le refus de soins, c'est bien, mais pas dans n'importe quel cas, je trouve. Parce que lui aussi, parfois, le patient, il peut manquer d'éclairage et souffrir davantage.
À ce sujet, justement, on est souvent appelé par les soignants. Alors, je dis les soignants, les aides-soignants, infirmières qui sont vraiment au contact, en fait, des patients et qui souvent repèrent ça, là, ce refus de soins ou ce qu'on appelle syndrome de glissement. Alors, effectivement, ça prend plein de formes. Je veux dire, il y a plein de degrés. Et souvent, les psychologues, justement, sont interpellés, voilà, ce sujet-là. Et on va finalement souvent rencontrer les gens pour voir un peu ce qui se passe pour eux. Alors, est-ce que telle ou telle personne, elle n'a pas compris que ce soin peut permettre ça ou ça? Est-ce qu'elle n'en a vraiment pas envie? Souvent, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle, nous, l'ambivalence. Cette question-là, d'en fait, j'ai envie de vivre, mais c'est intolérable la situation. Enfin, ça peut se décliner, voilà, en fonction vraiment des gens. Et c'est quelque chose que l'on rencontre souvent dans notre pratique. Effectivement, on est souvent interpellé, nous, à ce sujet-là, pour essayer de respecter ce qui se passe pour la personne.
Merci.
Oui, bonsoir tout le monde. Je rebondis sur la question obstination et fin de vie. Et sur ce thème, je pense à Anne Baer. Je pense aussi au point de vue du docteur réanimateur aussi qui dit c'est au patient aussi d'avoir un point de vue. Donc je reviens sur Anne Baer, quand elle a appris qu'elle avait la maladie de Charcot, Elle en a discuté avec son mari en lui disant, tu sais que je n'irai pas jusqu'au bout. Donc elle avait un point de vue. J'ai passé l'été dernier en me mettant en contact et en étudiant les points de vue de Anne Behr. Et elle m'a appris à extraire la mort du champ de l'après-vie pour inscrire la mort, c'est-à-dire le concept de mort, du côté de la vie. Et c'est ce que j'ai appris d'elle, c'est-à-dire avoir un point de vue avec des critères et puis se donner les moyens de sa liberté. Alors après, sur les moyens, on peut en discuter, mais de fait, voilà, c'est ce que me fait penser ce rapprochement entre obstination et fin de vie.
Oui, tout à fait. Anne Behr avait, elle, un seuil d'obstination déraisonnable qui n'était pas le même que celui d'un certain nombre de médecins auxquels elle s'est adressée en France. On peut dire ça comme ça.
Est-ce que quelqu'un d'autre, madame, non ? Peut-être alors, parce qu'on arrive un peu à la fin, et pour qu'est-ce que j'aimerais bien vous poser cette question, c'est parce qu'on avait débattu l'année dernière sur les directives anticipées, c'est Véronique à un moment donné l'a débattu, mais elle aurait dû écrire quoi ? Elle aurait dû écrire, Ginette, quelque chose dans ces directives anticipées ? Est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Parce que quand même...
Je crois qu'en ce moment, l'université de Poitiers, enfin une chercheuse de l'université de Poitiers, est en train de mener une recherche un peu à ce sujet. Est-ce que les directives anticipées, elles sont respectées ? Alors, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que ce n'est pas moi qui mène ces recherches.
Mais revenons sur Ginette.
C'est mon introduction à ma réponse. Et en fait, ce qu'elle m'en a ramené, elle, c'est que finalement, ce n'était pas toujours très adapté, ces directives anticipées. C'est qu'il y a quelqu'un qui l'a rempli à un moment donné, je vais le dire comme ça, en bonne santé, sur son idée de soi, dans une projection, moi qui pus me retrouver dans cette situation. Sauf que cette situation précise de danger de vie ou de mort, par exemple, voilà, quand on se retrouve en réanimation, de fin de vie après d'avoir souffert ou pas d'une maladie, toutes ces données-là, ça change en fait énormément la position. Dans mon quotidien de psychologue, ce dont je me rends compte, c'est que le peu de patients qui ont rempli les directives anticipées, en fait, il y a un monsieur, par exemple, qui m'a très bien dit qu'il était paniqué en me disant « Mais en fait, j'ai envie qu'on continue à m'aider à vivre là. » Moi, j'ai écrit que je ne voulais pas d'acharnement thérapeutique, mais en fait, si c'en est, ce n'est pas grave. J'ai envie qu'on m'aide à continuer à vivre là. Et c'est à ce moment-là qu'on entend les choses. Et on remet toujours les choses en perspective. Donc, c'est très compliqué parce qu'elles sont rédigées à un instant T et que l'instant T plus 1 plus 20, il n'est pas du tout pareil.
Vous n'avez pas répondu à ma question, mais...
J'ai essayé de le faire quand même.
Qu'est-ce qu'elle aurait dû écrire ? Est-ce qu'elle aurait dû écrire simplement, mais je ne veux pas aller dans une EHPAD ?
Eh bien, à un instant T, elle aurait pu écrire ça.
Mais la question est mal posée, c'est pour ça qu'on ne vous répond pas. C'est pas qu'est-ce qu'elle aurait dû écrire, c'est est-ce qu'elle voulait écrire ces directives anticipées ? Mais non, c'est parce que est-ce qu'elle veut en écrire ? Et après, est-ce qu'elle peut en écrire ? Et ensuite, qu'est-ce qu'elle met dedans ? Mais il y a plusieurs choses. Est-ce qu'elle est en capacité, difficulté cognitive ? Et est-ce qu'elle veut réellement dire ce que je veux aujourd'hui pour J1, J3 mois, J6 mois ? Parce que...
Ah, la question.
Ça, c'est autre chose. Donc là, imaginez qu'elle écrive quoi, madame ?
Elle ne veut pas aller en EHPAD.
Donc elle refuse d'aller en EHPAD. Que serait-il passé ?
Alors moi, de ma place de psychologue, je l'aurais repris avec Ginette, ça. À tel moment, voilà, vous avez écrit ça, alors en fonction de la rencontre qu'a lieu.
Mais voyez, excusez-moi de vous couper comme ça, mais tout de suite, on met en doute. Ah, j'aurais repris. Ah, attendez, on va y réfléchir. Peut-être que vous n'êtes plus tout à fait d'accord.
Mais je ne peux pas vous répondre autre chose. C'est ça notre travail, oui.
Oui, mais là, ce n'est pas du travail qu'on vous demande. C'est simplement, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un dit quelque chose ? Est-ce que tout de suite, on met en doute ?
Mais non, mais
tout de suite, on le met en question, c'est ça ?
Bah oui, moi, ma place, c'est ça. C'est à tel moment vous avez
rempli
ça.
Je ne crois pas, madame, que votre place, ça soit de remettre en doute là, ce que vient de dire la personne.
Bah, alors, ce n'est pas ce qu'elle vient de dire, ce qu'elle a écrit à un moment donné. Donc, de reprendre avec Ginette, c'est ce que je vous dis.
Est-ce que vous pensez que l'homme, l'humanité, soit capable de savoir à un moment exactement ce qu'il veut ? Vous êtes au restaurant, vous choisissez un plat, il arrive, c'est toujours mieux dans l'assiette du voisin. Vous êtes avec, une compagne ou un compagnon, celui de du voisin est toujours mieux que la vôtre. Ça, c'est la nature humaine.
J'avais pas l'impression que ça remettait en question, que c'était simplement une question pour voir si le projet de la personne était d'actualité. C'était pas une remise en question ce qu'elle avait dit. Enfin, et si elle avait dit je ne veux pas être séparée de mon fils.
Voilà, ça a été toute une question qui a un peu couru l'année dernière sur les débats sur les directives anticipées. Est-ce qu'on met des choses qui sont un peu de l'ordre de notre vie, des valeurs que l'on défend, de la façon dont on a envie de vivre, ou bien des choses purement médicaux qui pourraient être... Voilà, c'était ça la question. Et c'est pour ça que je me permettais, madame, de vous pousser un tout petit peu, parce que je me disais, ben voilà, quand quelqu'un dit quelque chose de très clair, je ne veux pas aller en EHPAD...
Peut-être que c'est ça que je peux vous répondre. C'est pas de la mise en doute si on vient questionner avec Ginette. C'est vraiment vous, Ginette, 88 ans et 5 jours, j'en sais rien. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qu'il a été? Comment on fait avec votre histoire de vie et comment on revient sur les choses ensemble? Bah, où vous en êtes? On le dit souvent comme ça. À ce moment-là de votre vie et comment je peux vous accompagner? Et en fait, ça, c'est toujours très variable. Et du coup, c'est de mon devoir que de reprendre avec elle ses directives anticipées et de lui demander où elle en est par rapport à ça. C'est vraiment pas de la mise en doute de sa parole. C'est peut-être ça que...
La mise en doute, je...
Sinon, c'est un testament de vie. C'est pas la solution française, c'est la solution belge. C'est-à-dire qu'on enregistre sur un papier officiel et on suit scrupuleusement exactement ce que la personne veut. C'est pas l'esprit de la loi. Mais c'est pas parce qu'on discute qu'on va remettre en question.
Non, mais c'est simplement parce que bien souvent, quand la personne dit quelque chose qui n'est pas tout à fait conforme, alors tout de suite, on le met en doute. Si elle avait dit « je veux suivre la vie du médecin », personne n'aurait dit « tiens, on va discuter, tout va bien ». Vous voyez, c'est un peu ça. C'est quand la demande de la personne est un peu inattendue, un peu compliquée. Voilà,
Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que ces directives anticipées, c'est important de les remettre dans un contexte. Et effectivement, même si on est d'accord avec tout ce qui est écrit, c'est important de valider, parce que les choses ont changé, la vie a changé, et le sens de sa vie a peut-être changé aussi. Donc c'est une histoire de validation pour être sûr d'être en cohérence avec sa personne, et non pas celle qu'elle a été il y a un an, 5 ans, quand elle a rédigé ces directives anticipées.
D'accord. Eh bien, une dernière question, ou une dernière... Madame, vous n'avez pas...
Non, en vous écoutant, j'ai toujours l'impression que... Oui, mais on va valider, je trouve ça très bien, on va voir, on va re-questionner par rapport à ce qui a été écrit. Mais toujours dans la perspective de... On a peut-être changé, le sens a changé. Et moi, j'ai envie de dire... Et si le sens n'a pas changé, et si elle continue de dire la même chose, comment les directives anticipées vont-elles être interprétées, reçues? Et puis une deuxième petite chose tout à l'heure, il y avait une réflexion, c'est faire subir à l'entourage le choix ou aux malades. Moi, je m'inscris contre. Je trouve que c'est à moi de choisir. J'irai pas plus loin.
Ben là, on arrive un peu... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
Juste que si elles n'ont pas changé, du coup, elles ne sont plus anticipées. C'est des directives sur le moment T. Donc, du coup, on fait avec ça. Vous voyez? C'est que le discours... Enfin, si elle a la même position, ben, c'est très bien pour Ginette. Enfin, qu'elle en ait une autre ou la même. Nous, on va essayer de respecter ça.
Véronique ou René, vous voulez un mot de... Pardon? Ben, je vous en prie. Avant que...
C'est que... Parce que j'ai entendu certaines choses et puis je n'ai pas l'impression que ça correspond à ça. Il faut que je parle devant. À qui doit-on dire notre souhait? Et j'ai entendu dire qu'il fallait le renouveler tous les 3 ans.
Alors, on va vous répondre, ça c'est très clair.
Eh bien oui, mais je ne le sais pas.
Ah non, mais c'est parce que la question se pose est très claire. Et voilà, et que Véronique...
Effectivement, Eric a raison, dans la dernière loi, depuis 2016... La loi dit que vous n'êtes pas obligé de renouveler vos directives tous les 3 ans et que tant qu'elles n'ont pas été démenties, elles restent valables.
Et à qui on s'adresse?
Et vous les écrivez et vous les adressez à autant de monde que vous voulez. À vous-même, dans votre portefeuille, à votre médecin traitant, à votre personne de confiance, à vos enfants, à qui vous voulez. Voilà. Vous n'êtes pas du tout obligé d'aller les enregistrer chez le notaire,
ou de les enregistrer dans une banque, je ne sais où. Voilà. On ne peut pas aujourd'hui les inclure dans la carte vitale. Elles vont être incluses prochainement dans le DMP, qui est le dossier médical personnalisé.
Mais j'ajouterais juste, pour contredire volontairement Véronique, c'est que le DMP, il devait exister il y a 10 ans, il devait exister, voilà. Mais peut-être qu'il va exister. En tout cas, vraiment, merci infiniment pour ce temps passé. Merci à vous de s'être prêté à cette situation. Et je dois juste rajouter que tout a été enregistré. Alors, si vous voulez réécouter, vous pouvez sans problème. C'est sur le site de... C'est sur l'espace de Mendès France. Voilà. Merci en tout cas. Voilà.
C'était pour vous embêter, hein, la question.
Non, mais tout à fait. Ah non, mais c'est vous avez répondu.